Vous écoutez RMC. RMC.
T'es un romantique, Julien, ou pas dans la vie, toi? T'es un romantique?
Quand il faut, tu sais, je m'adapte.
Je sais même que Polo est un romantique, tu vois.
Moi, je suis plutôt garçon bouché. La lambada, on n'aime pas ça, nous, on préfère la java.
T'es un sentimental, comme Edgar aussi.
Je suis un ours.
Bon, et Daniel, j'en parle même pas, à mon avis. C'est la folie à Rome, dans les rues de Rome. Les pique-niques improvisés.
Non, moi, je pense qu'au foot. Moi, je suis un garçon de 13 ans qui pense qu'au foot.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Génération After spécial Drôle de Dame. 2 heures de bonheur, 2 heures en direct des différentes villes européennes. Et ce soir, nous avons, pour la première fois en tout cas, à mes côtés, Daniele Manoussa, notre drôle de dame italienne qui est en studio. Bonsoir Daniele.
Bonsoir Karine.
Tout va bien ?
Tout va bien. C'est la première fois pour toi avec Nico.
C'est la première fois pour nous deux. Je parle évidemment de notre duo. Nous serons évidemment en Allemagne avec Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde.
En Angleterre avec Julien Laurence. Bonsoir Julien.
Salut Karine, salut à tous.
Et enfin l'Espagne avec Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut Karine, et quelle chance de partager ce moment avec Daniele.
Ah bah écoute, je suis ravi. Nous avions passé un moment ensemble aussi Edgar. Je crois que c'était au moment de Noël où tu étais venu faire les drôles de dames en studio. Messieurs, c'est une semaine de Ligue des Champions, on en parlera évidemment. Qu'est-ce que vous allez évoquer avec nous pendant ces 2 heures de Génération After? Vous avez 15 secondes et Edgar, on va commencer avec toi.
Est-ce que Strasbourg doit avoir peur du Rayo Vallecano? On vous dira tout ce que vous devez savoir sur le club espagnol et sur son équipe. On parlera du FC Séville qui est au bord du gouffre et qui pourrait, même devrait descendre à la fin de la saison. Ce serait un séisme évidemment. On fera un petit point rapide aussi sur la blessure de Kylian Mbappé. Et puis pendant la minute, je vous raconterai l'événement du week-end. Un gardien de deuxième division qui a frappé son adversaire avec une violence assez inouïe. Et sans oublier aussi l'Atlético, Karine, qu'on mentionnera aussi avant le choc face à Arsenal, évidemment.
Merci beaucoup. Bon, Daniele, toi, il ne s'agit pas de Ligue des Champions, je suis désolé, mais de quoi allons-nous parler?
C'est mieux que la Ligue des Champions. Un nouveau scandale d'arbitrage. L'Italie, elle est secouée par cette nouvelle enquête qui a fait démissionner le chef des arbitres, en fait, parce que c'était ça. Le chef de la VAR aussi. Après, on va parler des Milan-Juventus, on en a parlé un peu hier soir, mais c'était un match assez horrible qui dit beaucoup sur l'état de la Serie A. Et après, on va faire la minute sur un joueur de la région parisienne, de Paris, de Saint-Denis, qui joue en Serie A et qui vient de marquer son deuxième but dans 2 matchs de suite cette semaine.
Magnifique. Demain, vous le savez, il y aura notamment un PSG face au Bayern Munich. On le vivra ensemble sur RMC. Polo Breitner, de quoi allons-nous parler ce soir?
Évidemment, on va parler de ce duel entre le Munich et la capitale française, Olysée en particulier. Ça n'a l'air de rien, mais ce week-end, Dortmund a sécurisé la deuxième place, donc sa participation à la prochaine Ligue des Champions, facilement, 67 points en 31 journées, et pourtant on a le sentiment que c'est une saison perdue. Et puis, s'il y a Tottenham en première ligue qui ne va pas bien, et ben il y a Wolfsburg qui est toujours relégable aujourd'hui, et ce n'est pas n'importe quel club, donc on va l'évoquer aussi.
Merci beaucoup, et puis nous serons évidemment donc avec toi Julien en Angleterre. De quoi allons-nous parler?
Alors on connaît nos finalistes pour la Coupe d'Angleterre, parce que c'était un week-end de demi-finale à Wembley, ce sera donc Chelsea contre Manchester City. On va revenir sur Arsenal avant le match contre l'Atlético mercredi, et eux leur match de championnat ce week-end. On aura une minute sur un des matchs les plus fous, et pourtant pas dans les division professionnelle d'Angleterre, mais un match assez incroyable. Et puis on aura aussi un petit passage sur Leicester City qui a été relégué en 3e division 10 ans après son titre de champion.
Merci beaucoup. On va lui demander s'il tremble comme une feuille, parce qu'il est là en studio avec nous. C'est Gilbert Bribois pour nous parler évidemment du problème de l'after, mais il y a ce match terrible, hein, le Rayo Vallecano face à Strasbourg jeudi. J'ai pas l'impression que tu sois très très flippé, hein. Tout va bien?
Non, tout va bien.
Attention Gilbert.
Ah bah franchement, un club qui n'est même pas capable de mettre en place une billetterie automatique et qui est obligé de demander à ses supporters de faire la queue pendant 5 heures.
C'est le football à l'ancienne, monsieur. Ah,
bon. Non, mais on respecte tous les adversaires, bien sûr. Comme on respectait Mayence. qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, nous, on va parler ce soir. Bon, Ligue des Champions. On va demander à Polo de faire un peu d'heure sup parce qu'on veut tout savoir à la veille de PSG Bayern, bien sûr. Et on débattra de ce match qui est quand même un événement énorme. Hein, les deux meilleures équipes européennes du moment, sans doute. On en débattra tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que dit Luis Enrique. La Ligue 1 au programme avec les résultats du week-end et la course à la Ligue des Champions. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Gros débat sur Mbappé également ce soir. Walid Acharchour va en parler. Flo Gautreau, lui, veut nous envoyer le pôle à la Coupe du Monde. Il va nous expliquer pourquoi. Donc beaucoup de Ligue 1 et de Coupe d'Europe ce soir dans l'after de 22h à minuit, à ne pas rater. On lance ce soir le maillot de foot des 20 ans de l'after. On vous le fait gagner.
Magnifique.
Donc restez bien à l'écoute, ce sera tout à l'heure à partir de 22h.
On sera là. Merci beaucoup Gilbert. Les drôles de dames, c'est parti. Vous le savez, la planète foot n'attend que ça. Demain, le Bayern Munich se déplace à Paris. C'est la demi-finale aller de Ligue des Champions. On le dit, hein, c'est une finale avant l'heure. Et Polo, on va évidemment se tourner vers toi. Ce match passionne tous les amoureux du foot. Mais on se pose une question du côté du Bayern Munich. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du banc? Et on va parler aussi de ce qui s'est passé donc samedi, hein, parce que le Bayern a débuté le match avec une équipe qui était très remaniée. Et donc, les joueurs de Compagnie ont été menés 3-0 à Mayence. Qu'est-ce qu'il a fait Compagnie? Il a fait rentrer les valeurs sûres, les hommes forts. Évidemment, Olise, notamment le français, ou encore Moussiala et Harry Kane. Et au final, ils ont renversé Mayence, une victoire 4-3. Donc tout va bien pour le Bayern quand il y a l'équipe type, mais est-ce qu'il y a un souci de banc? Et j'en profite pour dire que dans le même temps, du côté du PSG, le groupe est au complet. C'est Luis Enrique qui l'a annoncé aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, on se posait déjà la question de la profondeur du banc bavarois. Et on n'avait pas prévu le retour à un très haut niveau de Gnabry. On n'avait pas forcément prévu l'explosion de Karl, Lennart Karl. Et donc finalement, on a pensé que tout ça allait être résolu. Il se fait que depuis plusieurs semaines et avant les matchs importants, Vincent Kompany se tournait vers son banc et faisait un turnover très important. Il y a quand même eu, au début de la rencontre, 8 personnes qui ont 8 titulaires qui seront au parc demain qui ne l'étaient pas. Et tu disais évidemment qu'à la mi-temps il a fait rentrer Olise et Kane, mais qui a remplacé Pavlovic et Luis Diaz qui seront aussi titulaires. Donc on était vraiment dans une logique de rotation. Cette rotation, depuis le début de la saison, elle a eu 100% de réussite. C'est-à-dire que le fait que Mayence mène 3-0 à la mi-temps, ça n'est pas habituel ce qui s'est passé ce week-end à Mayence. Et à tel point que Vincent Kompany, à la mi-temps, a poussé une gueulante assez impressionnante. Il voulait remporter la rencontre. Il a dit, je veux pas qu'on finisse à 3-3, je veux remporter la rencontre. Goretzka, Olise sont exprimés, ils évitent de dire ce qu'a raconté Vincent Kompany, mais en gros, ce n'était pas acceptable la prestation qu'avait fait le Bayern là-bas. Et moi, ce que je constate, au-delà du fait de réduire le Bayern à Olise et Harry Kane, c'est que le Bayern est encore une fois capable de renverser la table. Et c'est un petit peu ce que je disais ce week-end chez RMC ou sur RMC. C'est quand même une équipe qui refuse la défaite et qui a la dalle, quoi. Ça n'a strictement rien changé que le Bayern se fasse battre à Mayence, sauf à permettre à Mayence de se replacer dans les places européennes. Et tout ça fait que c'est quand même un point positif pour l'équipe du Bayern, qui me semble impressionnant, parce que le championnat a été joué, ça changera strictement rien. En gagnant à Mayence, ils ont toujours la possibilité de faire 91 points, comme le Bayern de Jupp Heynckes en 2013. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que ça aurait changé quoi qu'ils s'inclinent à Mayence par rapport à ça. Et ils vont quand même chercher la victoire. Donc moi, je trouve ça assez impressionnant, et c'est un peu ce qu'on dit ce week-end en Allemagne. C'est pas qu'un Bayern qui marche sur tout le monde, c'est un Bayern qui est devenu sympathique. Et ça, c'est assez rare dans l'histoire du Bayern. Et par rapport aux autres supporters, aux autres patrons de club, et des choses qui se disent, mais quand même, elle dégage quelque chose de très sympathique, cette équipe, et elle se bat, et elle va chercher des points qui ne sont pas utiles, et au passage, ne fausse pas le championnat. On pourrait se poser la question, par exemple, du Borussia Dortmund, mais si tu veux, tout ce qui se passe, eh ben, on a trouvé ça génial. Le fait qu'il renverse la table et qu'il l'emporte finalement à Mayence pour un match en bois, disons-le très clairement, ça a quand même eu des effets extrêmement positifs, et notamment le fait que c'est quand même une équipe qui refuse la défaite, et je trouve ça très positif avant justement le duel, comme vous le dites, entre les deux meilleures équipes du moment en Europe.
Mais par rapport au match de demain, parce qu'évidemment on se focalise sur ce qui va se passer demain, on l'a dit, le PSG a un groupe au complet alors qu'il y avait des incertitudes, notamment au milieu de terrain avec Vitinha, avec Fabian Ruiz, il y avait l'incertitude au sujet d'Hakimi, tout le monde est disponible. Le fait que le PSG ait quand même des solutions de sortie de banc, est-ce que ça fait peur ça au Bayern?
Pas tant que ça en fait. Mais on se pose pas la question. Tu sais, en Allemagne, c'est on dit toujours c'est 50-50, c'est 50-50 ce genre de rencontre. À la rigueur, si t'écoutes un Félix Magath, il regrette qu'une seule chose, c'est que ce soit pas la finale, quoi, et qu'on soit forcé de s'affronter avec le PSG en demi-finale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Guerrero, évidemment, ça n'a l'air de rien, mais il ne jouait quasiment pas.
Guerrero, ça sera les deux matchs, hein, d'ailleurs, qui va manquer.
Ouais, c'est Gnabry est pas remis, Lennart Kahl est pas remis, enfin, Gnabry c'est réglé, pardon. Lennart Kahl, il sera peut-être là pour le match retour, mais encore, je rappelle quand même que Gnabry était titulaire et c'est Moussiala qui va finalement être titulaire. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau offensif, on aura que Jackson en remplaçant Harry Kane, et à la rigueur, Goretzka, si on veut le faire monter d'un cran, comme il jouait à l'époque à Borum ou à Schalke. Mais si tu veux, il n'y a plus grand monde. Derrière, heureusement, ça va. Davis sera évidemment là et sûrement est-ce qu'il va rentrer. Et puis par contre, vu la prestation de Minier et Dito en défense centrale ce week-end, je ne suis pas sûr que le fait même qu'il soit là soit un avantage pour le PSG, pour le Bayern, pardon. Mais c'est vrai que le Bayern va jouer avec son 11 titulaire, ou j'ai envie de dire 12 joueurs de son 11 titulaire, parce que Moussiala quand même est en théorie un titulaire indiscutable. Mais est-ce qu'il sera à 100%, ça c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortie de banc, si ça se prolonge, mais ça sera la semaine prochaine évidemment, s'il y a un blessé, si ça risque d'être beaucoup plus très compliqué pour le Bayern Munich, oui.
Un mot également sur un homme, forcément, c'est Olise, il est très attendu du côté du Bayern Munich. On attend nous aussi sa prestation parce qu'il est français, c'est sa deuxième saison au Bayern Munich. C'est une réussite totale et qui impressionne, mais qui n'était pas forcément planifiée.
Bah c'est vrai qu'en fait, lorsqu'il est arrivé de Première Ligue, on s'est attendu, on savait pas trop qui c'était, hein, Olise, évidemment. Il a eu, je sais pas, sous le contrôle de Julien, les derniers mois assez extraordinaires en Première Ligue qui ont fait que, ils l'ont acheté pour, je sais plus, 55 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et il est arrivé, et il a fait, tu voyais qu'il était un petit peu fatigué, il a fait des matchs flamboyants, mais il a pas tenu toute une saison. Or, cette année, et ce qui frappe, c'est aussi la personnalité d'Olise. C'est-à-dire que personne ne le fatigue avec le Ballon d'Or. J'ai presque envie de dire que c'est une question purement française, et journalisme à la française. En Allemagne, il ne veut même pas en entendre parler. On n'entend pas au Bayern aujourd'hui, y compris avec Olise, un joueur qui passe son temps à avoir des réclamations, des demandes, des ceci, des cela. Il fait son match, il rentre chez lui, il se change, etc. Il vit sa vie. Personne n'entend parler de la vie privée d'Olise. Et à tel point que Rummenigge, il dit quand même, avec Kane et Olise, on a quand même deux professionnels de très très haut niveau en ce moment qui sont un peu à l'opposé de l'image du footballeur qu'on nous vend à longueur de temps. Et il dit, car Hans Rummenigge dit, ça fait quand même du bien d'avoir des joueurs comme ça. Et Olise, tu vois encore sa performance de ce week-end, bah tu te dis c'est génial parce que. Alors, c'est très intéressant de voir ce que pensent aussi les supporters du Bayern d'Olise, parce que tout le monde en ce moment veut le mettre sur un piédestal et tout ça. Mais les supporters bavarois, ils ont quand même un peu de mémoire. Ils disent, moi, je n'ai pas de problème pour mettre Olise au niveau d'un Robben et d'un Ribéry, à condition qu'il fasse la même chose plusieurs saisons. Donc là, on est encore une fois dans une amplification d'un phénomène en France, notamment parce qu'il est français, alors qu'en Allemagne, on reste beaucoup plus mesuré sur sa capacité. Mais sa saison est génialissime, il ne faut pas l'oublier. Il risque de battre le nombre de passes décisives en Europe pour un joueur. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il est adoré par Vincent Kompany, qui loue son professionnalisme. C'est quelqu'un qui se prend jamais la tête. Il a ses petites phrases, il déconne, comme si le football, finalement, n'était qu'un jeu et non pas un métier.
Et Olise, évidemment, il en a été question aujourd'hui, parce que vous savez, il y avait la conférence de presse et il y avait notamment l'entraîneur Kompany qui était présent au Parc des Princes. Il a dit, il a une certaine obsession sur le détail dans le travail, il va faire sa propre carrière. Pour avoir vécu le travail quotidien avec De Bruyne, ça c'est à l'époque où De Bruyne et Kompany étaient partenaires à City, il y avait cet aspect obsessionnel pour le détail. Il est bien dans la communication avec ses coéquipiers, bien dans le groupe, prend du plaisir, ça reste quelqu'un de créatif qui doit pouvoir s'exprimer et afficher une mentalité exemplaire. Et tu parlais aussi des propos de Rummenigge. Polo, il a déclaré que c'était no way, pas de départ possible pour Olise à l'issue de la saison. Il ferme la porte.
Oui, il ferme la porte. Enfin, c'est toujours pareil dans le monde moderne. Quand on dit qu'un joueur est unverkauflich en Allemagne, c'est-à-dire qu'il est invendable, on sait très bien que
oui, mais
ça
avec
dépend.
Le Bayern, c'est plutôt réel, non? Quand tu vois que le joueur part, il reste.
Ouais, écoute, moi je dis toujours, ça dépend du nombre de zéros que tu mets sur le chèque, quoi. Et donc j'attends. Non, mais honnêtement, ça, il partira pas au bout d'un an. Ce serait vraiment extraordinaire au sens premier, ce ne serait pas ordinaire qu'il parte au bout d'un an. Il va aussi avoir la discussion à nouveau pour une nouvelle prolongation pour Harry Kane, et tout ça est dans le tube, mais c'est surtout qu'il se plaît beaucoup en Bavière, et encore une fois, il n'a pas le comportement de star, ou de, je dirais plutôt de starlette, de beaucoup de joueurs, et on n'entend jamais parler de lui. Et moi, c'est ce qui me frappe aussi lorsque je parle de cette sympathie du Bayern version compagnie deuxième année 2025-2026, c'est qu'il y a une forme de sympathie qui se dégage de cette équipe. On a envie de jouer au foot, on est content, ça se passe bien. Même quand on est en difficulté, on reste une équipe soudée ensemble. Ça n'empêche pas Vincent Kompany d'avoir poussé une gueulante à la mi-temps en disant c'est inadmissible la façon dont on joue. Mais alors ça aurait même pu être compréhensible, hein, le fait de à quelques jours du match contre le Bayern, on relâche un petit peu les fondamentaux. Maintenant, je trouve ça assez impressionnant ce qui se passe en ce moment. Et encore une fois, le fait que cette équipe, et Olysée en particulier, se concentre juste sur les 90 minutes et qu'on n'entend pas parler de ses joueurs en dehors du terrain, je trouve ça extrêmement bénéfique pour le football actuel.
Je voulais poser une question à Polo justement sur les caractères d'Olysée, parce que c'est vrai, il a l'air très sérieux. Et voilà.
Mais c'est vrai qu'on le connaît très peu au final.
Oui, mais il a quelques petits traits de un peu pas bizarre, mais tu vois pas comment. Genre quand on le voit, il fait pas les photos souriant quand il gagne les tournois.
Il est pas expressif.
Il est pas. Non, il est vraiment très très dans les décalages. Il est très à côté. Quand en Italie par exemple, on a montré beaucoup de vidéos. Quand il rentre sur les terrains pour voir l'état du terrain.
Oui, quand il fait avec sa chaussure pour voir effectivement l'état de la pelouse.
Mais deux secondes. Normalement, les footballeurs, ils marchent. Là, il y a eu Musiala qui a pris le téléphone après les matchs pour faire un selfie. Et pour rigoler, hein, pour, toujours dans l'esprit de coéquipier. Mais il a fait un doigt d'honneur. Donc, il est toujours un peu décalé par rapport à l'esprit d'équipe. Toi, Polo, tu t'es fait une idée du caractère réel de ces garçons en profondeur?
Ce qu'il ne faut pas oublier, alors à moins que ma mémoire me fasse défaut, mais il n'a pas de contrat.
C'est
sur
ça.
Tout ce qui touche les réseaux sociaux et tout ça, qu'avec d'autres grands champions qu'on a en Europe. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça. Et moi, enfin, je dis merci à Olysée s'il continue comme ça. Hein. Je suis pas personne, parce qu'il y a des montants qui sont évidemment très importants. Mais en tout cas, il n'a pas de revenus liés à tout ça. Rummenigge parle de timidité par rapport aux médias. Moi, je pense que c'est plus une forme de barrière qu'il a envie de mettre parce qu'il a peut-être que enfin il gagne très bien sa vie au Bayern, faut pas l'oublier quand même quoi. Mais peut-être que pour lui, il se dit mais ça va, moi ça me suffit et j'ai pas envie de passer ma vie à faire des pubs, à faire des ceci, à faire des cela quoi. Enfin, c'est peut-être pas quelque part, c'est un peu l'anti Jürgen Klopp quoi. Quand on voit la télé, on le voit plus en tant que gars qui fait de la pub que en tant qu'ancien coach. Donc c'est assez impressionnant. Moi, je trouve, et c'est inhabituel au Bayern. C'est-à-dire, c'est quand même une.
Et dans le foot tout court, comme tu disais, en fait.
Oui, mais attends, le Bayern, c'est particulier. C'est un club qui a de l'habitude, qui a une culture du conflit. On n'est pas forcé de s'aimer au Bayern, et en général, on a une tendance à le dire. Et là, il se passe rien. Et Olysée, évidemment, en crevant l'écran, on parle plus de lui. Mais Harry Kane, regardez Harry Kane, et c'est le normal one, quoi. C'est pas un special one, quoi. C'est quand même des gens qui, je trouve, font du bien au football parce que on n'est pas là dans les tabloïds à X, Y en train de dire, voilà, il se passe ceci, il se passe cela. Moi, je suis désolé, on se concentre sur des matchs qui sont très, très importants et qui vont définir la fin de saison. Évidemment, le match contre le PSG, c'est un highlight, c'est évident. Mais il faut aussi se dire que avoir un joueur comme Olysée qui n'est pas dans les tabloïds, je peux t'assurer que ça fait du bien. C'est-à-dire que tu peux te concentrer sur ses performances. Tu vois, moi, j'ai toujours eu tendance depuis le début de la saison à essayer de minimiser un petit peu ce que faisait Olysée parce que justement il y a l'histoire du Bayern et tu n'es pas le successeur de Robben du jour au lendemain. Donc et maintenant, il est sûr que le 4-3 qu'il met contre le Real, il n'est pas forcé d'aller le chercher. Ils sont déjà qualifiés. Sa vitesse, j'en ai parlé vendredi dernier avec une personne qui travaille à l'UEFA. Ils ont rarement vu quelqu'un qui a une accélération dans la frappe de tir comme ça, qui est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Donc c'est des choses, c'est intéressant de discuter de choses comme ça, technique de le joueur, qu'est-ce qu'il peut améliorer parce que c'est encore un joueur jeune, plutôt que se poser la question quelle est l'influence de sa troisième amie en six mois sur son jeu, quoi.
Justement, la transition est parfaite, Polo. On a parlé d'un homme dont on parle que de son jeu, un homme qui est dans tous les tabloïds, qui est évidemment dans toutes les polémiques quand il y en a une, même si c'est pas toujours de sa faute. Et là, on va parler de Kiki Edgar Kylian Mbappé, qui est évidemment un très bon joueur de foot, mais qui n'est pas qu'un joueur de foot. Et vendredi, il a été encore question de Kylian Mbappé. Il est sorti à la 81e minute lors du match nul 1-1 face au Betis Séville. Il y a eu énormément de critiques par rapport à sa prestation. Aujourd'hui, le Real a communiqué sur la blessure du Français.
Oui, il est blessé aux ischio-jambiers, donc plus précisément au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Il a fait des nouveaux tests ce matin au centre d'entraînement. Alors les premiers tests après le match, on nous parlait d'une surcharge. Là, on nous parle d'une blessure, même si aucune durée d'indisponibilité, je vais y arriver, n'a été communiquée par le club. L'idée, ou en tout cas l'objectif, ce serait de pouvoir le retrouver lors du Classico. Ça ne veut pas dire qu'il est attendu au Classico, hein. Mais ça veut dire que on espère à Madrid qu'il pourra être de retour. En tout cas, c'est pas impossible qu'il soit de retour pour le Classico. Il va rater le match, ça c'est une certitude, ce week-end face à l'Espagnol de Barcelone. Faudra voir comment ça évolue. Il n'y a pas de raison pour l'instant de s'inquiéter, par exemple, par rapport à la Coupe du Monde. Hein. On n'en est pas du tout là. Mais forcément, quand t'es à 6 semaines du premier match des Bleus, tu te poses des questions, tu te demandes quand est-ce qu'il va revenir, tu te demandes combien de matchs et dans quelles conditions il va pouvoir enchaîner ses matchs avant de jouer avec l'équipe de France. Donc forcément, le timing rend les choses encore plus compliquées et surtout, on se rend compte que finalement, il a été bien embêté par les blessures depuis le mois de décembre, puisqu'au total, il a déjà raté 10 matchs cette saison. Si on compte les matchs, il y en a 2-3, Karine, où il était dans le groupe, mais on savait qu'il allait pas jouer et il a pas joué. Ça fait 10 matchs au total et ça en fera donc 11 après ce week-end là, ce qui est pas forcément habituel pour lui et surtout sur cette deuxième partie de saison où finalement il a pas vraiment pu enchaîner de longues périodes, de longues semaines de jeu à son meilleur niveau.
Et le Classico, donc, c'est le 10 mai prochain, ça sera sur la pelouse du Barça. Entre temps, il peut aller en stage chez Olysée, si tu veux, Edgar, pour qu'il apprenne, voilà, comment peut être un footballeur de premier plan, tout en étant très discret et très secret. Ça peut lui faire du bien.
Je crois que c'est un peu tard, là, niveau communication. Ça ferait bizarre.
Écoute, il y a des revirements de situation parfois, il y a des virages dans des carrières, tout est possible. On va partir maintenant en Angleterre avec toi, Julien. On va parler de Chelsea, qui est donc en finale de la FA Cup, une victoire 1-0 face à Leeds. Et on rappelle que c'était le premier match après le limogeage de Rosenior.
Ouais, c'est vrai que malgré tous les problèmes cette saison, malgré les changements d'entraîneur, malgré les mini-crises, malgré cette forme pas forcément toujours là de l'équipe au sein du club, etc., ils sont en finale d'une nouvelle compétition. Ils pourraient remporter leur troisième titre en l'espace de, on va dire, de 12 mois quasiment. Et c'est vrai que ça, en soi, c'est assez incroyable. C'est finalement, on parle souvent d'ADN dans nos émissions, sur nos clubs de foot, dans nos pays, etc., d'identité et tout ça, parfois peut-être un petit peu même à tort, mais il faut reconnaître quelque chose à Chelsea, même quand les choses ne vont pas bien, parce qu'en ce moment, elles vont pas bien. Cette saison, c'est pas une bonne saison, ça sera pas une bonne saison, même s'ils gagnent la Coupe d'Angleterre. Mais quand même, ils sont quand même toujours là dans ces matchs-là qui comptent pour aller peut-être chercher encore un titre. C'est quand même une équipe qui, sur les 20 dernières années, un club en tout cas, qui a beaucoup gagné. Ça, faut leur reconnaître. Même si cette saison, encore une fois, a été compliquée, ils sont allés chercher cette place en finale. Alors, c'était pas joli comme match contre Leeds. C'était pas une très bonne performance non plus. Ils ont 2 tirs cadrés sur toute la rencontre et un expected goal, je crois, de 0,38. Mais ça gagne. Ça marque un but d'Enzo Fernandez. Effectivement, tu l'as dit, Karine, après les Rossignol. Alors, est-ce qu'on a vu une grande différence par rapport à Rossignol, ses derniers matchs et le match là de Cal McFarlane, qui avait déjà été intérim après le départ de Maresca, notamment contre Manchester City, vous avez fait un partout à l'extérieur. Après, il y avait eu le match contre Fulham qui était un petit peu moins bon. Mais Mais par exemple, on avait, beaucoup vu Ato ces dernières semaines avec Chelsea sous Rossignol. Là, c'était pas lui qui jouait en défense centrale, c'était Tosin par exemple, qui était pas trop en odeur de sainteté avec Rossignol. Donc il y a eu quelques changements comme ça. Il y avait Cole Palmer sur le banc parce qu'il n'était pas encore complètement prêt physiquement. Donc on a retrouvé Enzo Fernandez dans l'axe en numéro 10. Et c'est comme ça qu'il m'a. D'ailleurs, c'est là où il est très fort. On l'a souvent dit dans ce rôle-là où il fait ses courses dans la surface en partant loin. Il est à la réception du centre. De la seule action finalement plutôt bien menée, on va dire entre guillemets, pas la seule mais une des meilleures du match pour Chelsea. Donc voilà, ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont une finale à jouer maintenant contre Chelsea, contre City à la mi-mai,
16 mai, oui, effectivement.
Voilà, le 16 mai effectivement à Wembley, mais en tout cas c'est ce qu'il leur fallait pour ça va leur faire beaucoup de bien cette victoire, même si encore une fois il n'y avait pas la manière. Je pense que c'est pas la manière qui comptait, il fallait vraiment le résultat et ils l'ont eu.
Donc il y a peut-être quoi, un soulagement aussi que ça soit terminé avec Rossignol.
Oui, je pense. Alors on nous raconte beaucoup d'histoires. C'est comme tout le temps hein, quand un entraîneur d'un club aussi important est limogé comme ça. On a beaucoup de gens qui racontent des histoires, qui t'appellent et le club qui brief sa version 1 à lui. Rossignol de son côté, lui a forcément eu un ressenti différent. Et au niveau des joueurs aussi, on a plein d'histoires qui ressortent. Certains appréciaient pas trop Rossignol, certains avec des surnoms pour Rossignol qui n'était pas très gentil, on va dire. D'autres qui l'appréciaient beaucoup, ils trouvaient qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans son rapport personnel avec une partie de l'effectif. Donc, mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est dans tous nos grands clubs surtout quand un entraîneur est limogé, il y a toujours des gens qui l'ont aimé, d'autres qui l'ont pas aimé, certains qui étaient heureux, d'autres qui n'étaient pas heureux. Voilà, moi, comme on l'a dit déjà la dernière fois, je pense que c'est un très bon jeune entraîneur qui est pas encore un grand entraîneur fait pour un grand club. Il le sera peut-être un jour. Pour l'instant, il l'était pas. Il a pris ce job parce qu'il pouvait pas le refuser. Je comprends tout à fait. Il a fait des erreurs dans sa communication qu'on peut très bien comprendre aussi. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup trop jeune finalement pour l'ampleur de la tâche, et que c'est ça qui lui a au final coûtait très cher. Donc oui, il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément grands fans de Rossignol et de sa façon de fonctionner. D'autres, c'était un peu mieux. Et au final, de toute façon, il n'était pas au niveau. Donc ça ne servait à rien de continuer.
On va partir maintenant en Espagne avec la Minute d'Edgar.
Lado Oscuro, le côté obscur du groupe de rock espagnol Jarabe de Palo. Et oui, le côté obscur.
Mais pourtant, ça a l'air très doux comme chanson, Edgar.
Eh oui.
Moi, je pensais que t'allais mettre du métal, un truc hard, tu vois.
Non, mais écoute, je suis allé pour ça, pour calmer un petit peu la tension de la scène aussi, parce que c'était très très violent ce qu'on a vu ce week-end, Karine, parce que Esteban Andrada, qui est donc le gardien de Saragossa en deuxième division espagnole, il a 35 ans, il est international argentin, il est passé par Boca Juniors, par Monterrey, des moments chauds, il en a connu, mais depuis le début de sa carrière, et ça l'a pas empêché de complètement péter les plombs contre Huesca, comme quoi en fait le fameux derby Saragossa-Huesca vaut plus au niveau de la pression qu'un super classico Boca Junior River Plate, parce que on était dans le temps additionnel, Saragossa perdait 1-0 et à ce moment-là l'arbitre va voir la VAR pour expulser un joueur. Les uns les autres se rapprochent de l'arbitre et Andrada pousse le défenseur adverse Jorge Pulido. Pulido tombe au sol, Andrada expulsé par l'arbitre. Et là, tout d'un coup, Karine, Andrada devient mais complètement fou. Il court, mais il sprint vers Pulido, il lui met un coup de poing monstrueux. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça.
Non,
sur
mais les images sont
presque jamais. Non, mais c'est n'importe quoi. La séquence, elle a fait le tour du monde. Si vous aimez le MMA, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si vous avez un oncle un peu beauf qui aime bien se battre, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Il va bien aimer aussi. J'en rigole, mais évidemment, c'est d'une violence inouïe et d'une tristesse absolue sur un terrain de foot. Pulido, il avait une marque autour de l'œil après. Andrada, il s'est excusé publiquement. Il a expliqué qu'il s'était déconnecté. On avait remarqué, effectivement. D'après la presse espagnole, il pourrait avoir jusqu'à 15 matchs de suspension. Et surtout, son contrat pourrait être rompu directement par son club.
Oui, là, la faute grave, imminente. Au moins, elle peut être plaidée.
Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on va pas trop galérer du côté de Saragossa pour trouver un motif de licenciement.
C'était pas très technique, hein.
Parce que toi, c'est vrai qu'il paraît que tu aimes beaucoup le MMA, Daniele.
Oui.
Ça n'a rien à faire sur un terrain de foot.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
C'est comment ça, pas scandaleux, Daniele?
Bah, dans les professionnels, oui, c'est bien un carton rouge, c'est bien.
Mais enfin, Daniele.
Mais ça arrive sur tous les
On est terrain, vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais enfin, Polo, non, mais vous, êtes sidérant,
enfin,
là.
Donc, il y a un mec qui donne un sérieux, coup de poing à un autre, mais j'aurais voulu.
Mais il l'a pas juste poussé, il lui a mis un poing.
J'aurais voulu vous voir sur un terrain de football il y a 25 ans, les gars. Je sais pas.
Mais enfin, c'est extraordinaire, ça, Polo.
Bah, sur un terrain de football il y a 25 ans, Polo.
Karine.
À une autre personne, c'est toléré, en fait.
Karine, elle aurait amené son chouchou, là, pour.
Ah, ben ouais, il m'aurait défendu et il t'aurait bouffé. C'est quand même génial. Non, mais vous êtes incroyable. Je vous rappelle quand même que c'est diffusé à la télévision. À quel moment on se dit, tiens, un gardien qui pète les plombs, ça peut se comprendre, il peut aller péter la gueule d'un adversaire.
Non, mais jamais, il peut pas. Mais ça arrive. Ça arrive.
En fait, on découvre, parce qu'à chaque fois, on voit les gars qui font genre de courir vers quelqu'un et qui sont séparés par leur
coéquipier. Oui, normalement, ils tapent jamais.
Bah, on découvre, ça, c'est pire. On découvre ce qui se passe quand ils vont au bout, quoi.
C'est vrai que souvent c'est les mecs qui font un petit peu.
Quelqu'un soit retenu par son collègue quelqu'un.
Non, mais je trouve pire quand ils font en semblant, ils font des choses. Là, il faut jouer, c'est tout. Par contre, s'il y a vraiment des raisons, s'il y a vraiment de.
Non, mais il n'y a pas de raison, il y a de la violence là, Daniel.
Oui, non, mais je ne veux pas justifier la violence, mais j'ai dit juste que voilà, ça arrive, c'est pas.
Des débats philosophiques.
Voilà.
Donc, Daniel, toi, tu optes quoi pour un licenciement?
Ben, si j'étais civil, ben non, il paye, il s'est fait.
Juste une suspension.
15 matchs, je ne sais pas combien ils vont lui donner.
C'est ce que nous a proposé Edgar au niveau de la Ligue, effectivement. Julien, toi, les bastons en Angleterre, on en connaît, hein, bien évidemment, c'est arrivé. Pas d'avis sur le gardien de Saragosse?
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait Edgar. C'est inadmissible, c'est pas acceptable. Tu peux pas, t'as pas le droit. Encore moins là, oui. Polo a raison. Le football, comme disait notre ami, le football, il a changé de toute façon. C'est la vérité. Hein. Donc, à un moment, peut-être que ça pouvait passer encore il y a 25 ans. Là, ça passe plus du tout maintenant. Et puis, c'est aussi au gardien, enfin, à lui en tout cas, s'il avait été un petit peu plus intelligent, il aurait sûrement fait autrement. Mais dans ma minute tout à l'heure, je vous en parlerai parce que c'est aussi arrivé dans mon match. Mais là, c'était un joueur avec un supporter. Donc, c'est peut-être encore pire, même.
Ouais. Ah oui. En plus, il est prêté. Hein. Il est prêté. Donc, je pense que ça va être vite réglé. Ils vont raccourcir le prêt et enlever son contrat avec eux. Il va retourner dans son club de Monterrey et je pense que ce sera réglé.
Bah, ça sera. A priori, logique, on rappelle en plus que le club se bat pour ne pas descendre en 3e division. Merci beaucoup, Edgar. Et évidemment qu'il doit y avoir des sanctions, n'en déplaise à Polo. Dans quelques instants, on parlera de Strasbourg. Est-ce que Strasbourg doit avoir peur du Rayo Vallecano? Parce que vous le savez, c'est l'affiche de jeudi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Arsenal qui gagne sans convaincre avant la Ligue des Champions. On en parlera avec Julien. Et puis Dortmund, une saison pour rien. Polo nous dira tout. A tout de suite dans Génération After spécial. Drôle de dame.
RMC 20h-22h Génération After.
Karine Galli. On est ensemble avec notamment Daniele Manoucia qui est ce soir présent dans le studio pour nous parler de l'Italie avec Polo Breitner en Allemagne, avec Julien Laurence en Angleterre et en Espagne avec Edgar Grolot. On va évidemment parler du choc. C'est un choc sur l'affiche. Hein, Milan-Juve, ça fait rêver. Deux grands noms du football italien. Évidemment, on espérait avoir un grand match. Ce sont deux équipes qui se battent pour la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ça a été extrêmement pauvre. La qualité du match n'était absolument pas au rendez-vous, Daniele. Et ça reflète vraiment le niveau aussi de la Serie A. Il y a un gros problème. La Serie A baisse d'année en année et le niveau cette saison est vraiment décevant, voire même parfois catastrophique.
C'est une année un peu particulière. Dans ces matchs, il y avait beaucoup en jeu. La Champions League pour la Juventus, les Milan aussi qu'il allait pas bien, donc Allegri il est en train de faire les comptes vraiment match par match. Là il a dit il manque 4 matchs, il faut gagner 2 matchs pour aller en Champions League, donc il avait peur lui aussi de pouvoir perdre la 4e place. Donc voilà, on comprend aussi. En Italie on dit mieux vaut 2 blessés qu'un mort. Je ne sais pas si on dit ça en France.
Alors, je ne connais pas cette expression en France. Je ne sais pas, les garçons, aidez-moi. Vous connaissez cette expression en France?
Non, mais c'est intéressant. C'est aussi philosophiquement.
Oui, voilà.
Ça dépend comment tu es blessé, déjà. Mais... Oui. Si tu fais mort par un chouchou, ce n'est pas bien grave. Tu peux le tondre avant, mais c'est...
Mais quelle honte, pas. Il va te dévorer. Bon, en tout cas, au niveau de l'expression, moi, je la connaissais pas.
Mais c'est peut-être clair, qu'elle existe. Que ça veut dire.
Oui, mais c'est vrai que le niveau de la blessure est important, comme dit Polo, tu vois, ça dépend.
Oui, là, elle est faible. C'est-à-dire, un point chacun, ça va très bien à la Juventus, qu'elle allait jouer à San Siro avec 60 000 personnes, 70 000 personnes. Si la Juventus, elle avait perdu, elle avait Como encore plus près, elle a des matchs pas très difficile à Juventus d'ici à la fin de l'année, mais il faut faire attention. Donc la Juventus, c'est bien un point. Les Milan, il avait des points d'avantage, donc avec ces points-là, il reste en troisième place. Donc c'est bien pour tous les deux.
Oui, mais Daniel, la qualité.
Oui, c'est ça qui est catastrophique. Après les matchs, dans tous les plateaux télé, il n'y avait pas une seule personne qui pouvait défendre ces matchs-là. Il y a même Lele Adani, qui c'est un commentateur italien assez connu, là il est à la RAI, qu'il a profité pour faire un décès, vraiment, il a sorti le feu, il a sorti vraiment l'artillerie lourde sur Allegri, parce que c'est un peu son grand ennemi. Et c'est vrai que c'était un match où il y a eu, bon, le Milan, je pense qu'il a eu 0.6 expected goals, la Juventus 0.4, il y a eu un transversal des Salemakers, il y a eu un but pas validé à Kefren Thuram, une autre dribble de Conceição, et c'est fini.
C'est le néant.
Il y avait rien d'autre. Il y a des gens qui se sont endormis, des gens qui ont effectivement un étranger. Parce que si on est en Italie, on supporte Milan, Juventus, on le regarde les matchs. Si on supporte la Roma et on veut voir qu'est-ce que s'y passe pour la Juventus, pour la Champions League, parce que la Roma elle est encore en course, on le regarde les matchs. Mais si on est à l'étranger, on part d'aller jouer des matchs en Australie, en Inde.
Pour promouvoir le foot italien.
Oui, voilà. Et après, il y a ces matchs-là. Mais ils vont changer de chaîne au bout d'un quart d'heure. Donc, après, je pense que le fait qu'il rend encore plus lourd ces matchs-là, c'est cette journée-là et cette saison, parce qu'il y a eu plusieurs journées comme ça. Mais là, aujourd'hui, Cagliari et Atalanta, c'est fini 3-2. Donc, il y a eu 5 buts. Mais hier, sur 8 matchs joués entre samedi et dimanche, il y avait 7 matchs où une des deux équipes n'avait pas marqué de but. Donc 7 sur 8 matchs, il y a seulement une équipe qui a marqué de but. Il y avait, je crois, 13 buts en 8 matchs, mais il y avait deux matchs où il y avait eu 4 buts chacun. Donc l'Inter et un autre match. Donc il n'y avait pas beaucoup de buts.
Il y a pas de spectacle, c'est ça le problème encore. Tu peux avoir des 0-0 qui sont passionnants, mais malheureusement c'est pas le cas du tout en Serie A.
Et surtout, ça c'était vraiment les manifestes d'un football qui pense qu'à défendre. Il pense avant tout à défendre. Allegri, on peut lui dire seulement une chose positive sur cette année, qui est la défense de Milan, qui l'année dernière, elle avait l'air des fois catastrophique. Tomori, on disait peut-être Tomori.
Mais c'est la meilleure de Serie A cette année.
Oui, c'est une bonne défense, mais il joue à 70 mètres de distance de l'autre surface des réparations. C'est impossible d'attaquer. Léo s'est brûlé. Hier, il a ressorti. Le stade, il a sifflé. Et je me demande aussi, les gens qui étaient au stade, dans un beau stade, voilà, il y a toute l'histoire, ils vont aussi les détruire et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont aimé les matchs? Je pense pas.
Mais Daniele, ce match qui était un choc, que tout le monde avait envie de regarder quand t'aimes le foot, quand tu t'intéresses au foot et encore plus quand t'es en Italie, ça montre à quel point la Serie A est malade. Ils ne pensent pas à gagner des matchs, ils pensent à ne pas perdre.
Oui, après, pas tout le monde. Et après, ça n'a même pas beaucoup de résultats. Parce que là, le Milan, Allegri, il dit, en gros, j'ai une équipe tellement mauvaise que c'est un miracle que je suis troisième. Il n'y avait aucune manière. En fait, il a fait l'interview après, et en gros, il a dit, on n'aurait pas pu faire mieux que ça. Il dit, j'ai une équipe qui est plus que 0-0 contre la Juventus, je ne peux pas faire. Bon, est-ce que les supporters, ils sont contents d'un entraîneur qui parle comme ça? Et pourquoi bon de se qualifier en Champions League? Si tu as une équipe si mauvaise cette année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? C'est pas comme s'ils vont acheter vraiment Lamine Yamal ou Olise. Elle va un peu s'améliorer peut-être l'équipe des Milan. Mais je pense que jamais Allegri va dire de son équipe, moi, j'ai une équipe qui peut effectivement faire un jeu spectaculaire. Et jamais. Parce que Daniele, c'est pas son idée.
Polo.
Excuse-moi. Est-ce que tu penses, parce que c'est, pour moi, ce que tu dis est très important et c'est un débat passionnant pour un pays footballistique comme l'Italie. Est-ce que tu penses que c'est structurel, le problème de l'Italie? Parce qu'il y a encore deux ans, le football italien allait bien. On voit le coefficient UEFA, je crois qu'ils avaient fini premier ou deuxième, je sais plus, avec la première ligue. Est-ce que tu penses que c'est structurel, que c'est conjoncturel lié à cette saison, comme moi l'année dernière? dernière, j'ai eu une mauvaise, je considère que c'était une mauvaise année en Bundesliga, où les problèmes de stade, les problèmes de violence, les problèmes peut-être des directions, les problèmes des changements de propriétaires qui ne sont plus italiens et qui sont aujourd'hui étrangers, l'aura peut-être de la Serie A qui a perdu justement de son aura par rapport à il y a quoi, 20-25 ans maintenant. Est-ce que tu penses que c'est structurel et que le football italien est vraiment plus que balade? Je rajoute évidemment les absences en Coupe du Monde.
Après, on va parler du scandale d'arbitrage. Donc, il y a sûrement des problèmes à tous les niveaux et c'est structurel sous le point de vue de la fédération, des propriétaires, de structure économique, parce que le problème économique, il est là, il faut pas se mentir. C'est le Milan, ils ont pas une équipe pour Allegri au niveau, ceci parce qu'ils
ont dû ramasser. Mais on peut pas se cacher derrière l'argent quand même, là, Daniele. Quand tu vois la pauvreté sur le terrain.
Non, après, moi je pense effectivement qu'il y a
comme le Havre en France qui joue au foot alors qu'il y a zéro budget pour recruter par exemple.
Mais même en Italie, il y a des équipes qui jouent au foot comme Cagliari, Atalanta aujourd'hui.
Ils ont des sous quand même.
Mais pas les sous de Milan. Milan, ils ont quand même plus de sous. Pourquoi si comme ils peuvent faire ces matchs-là, cette équipe-là, elle peut pas la faire l'AC Milan ou la Juventus, qu'elle avait une bonne équipe. On l'a dit la semaine dernière, c'est l'équipe peut-être avec les meilleurs jeux. Mais là aussi, Spalletti, il a pris des choix. Il y a une maladie philosophique, on va dire en Italie, qui c'est la maladie de pas courir des risques. On pense que si on court pas des risques, dans le football, mais aussi ailleurs, si on court pas de risques, rien va se passer. Mais non, les choses négatives, elles vont de toute façon se passer. Tu vas perdre des matchs, même si tu essaies de pas courir des risques du tout. Après, c'est ça qu'il faut, c'est comment il entraîne les entraîneurs. Aussi, Spalletti, à la fin du match, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Ils ont fait bien les marquages préventifs. C'est-à-dire, pour pas se faire jouer en contre, pour pas prendre des transitions par Milan. Donc, je veux dire, si toi, c'est que tu pensais, c'était ça, bravo, mais non,
c'est pas ce qu'effectivement les fans de foot attendent et malheureusement donc mais la Serie A sympathie.
Juste pour répondre à Polo, c'est une saison où il y a beaucoup de vieux entraîneurs aussi. Moi je pense que c'est ça. Allegri, il est pas jeune, il a des idées qui sont pas innovatives. Spalletti, il est pas jeune et après c'est un des meilleurs, c'est un des plus innovatifs. Sarri, c'est aussi un entraîneur que moi j'aime bien, mais il est pas jeune et la Lazio, c'est pas une équipe.
Il faut des Fabregas. Voilà. Il est espagnol, il est plus jeune.
On se moque de Fabregas à tous les coups. Il a perdu en Coupe d'Italie contre l'Inter dans un match fou où il gagnait de 2 buts à 10 minutes de la fin. C'est un match où tout seul, qui t'a regardé ces matchs-là et tu te dis vraiment, personne n'a perdu parce qu'ils ont joué toutes les deux équipes, ils ont bien joué, c'était intéressant, c'était drôle, c'était beau. Tout fait ça et ils se sont moqués de lui parce qu'ils ont dit pas de résultat pour Fabregas.
Et pourtant, on prend du plaisir effectivement à regarder le com de Fabregas. On va repartir en Espagne avec Strasbourg. Est-ce que Strasbourg doit avoir peur du Rayo Vallecano? Dis-nous tout, évidemment, Edgar, parce qu'on rappelle que jeudi, il y aura la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, que vous la vivrez sur RMC, évidemment. C'est la première de l'histoire de Strasbourg. Strasbourg se déplace donc chez le 11e de Liga. Raconte-nous tout de cette équipe qui est située donc dans un quartier populaire de Madrid et cette ambiance si particulière de Vallecas.
Alors déjà, est-ce qu'ils doivent avoir peur? Ils doivent avoir peur du stade, des vestiaires, des conditions dans lesquelles ils vont jouer, parce que c'est très 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 loin du niveau déjà professionnel, mais encore plus d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Je me souviens en tout début de saison, une vidéo qui avait été filmée par l'équipe de communication du Lech Poznan dans les vestiaires visiteurs, où ils montraient que il y avait l'une des pièces du vestiaire où il n'y avait pas de lumière, il y avait une pile de serviettes qui avait été donnée, tu n'avais pas de serviettes qui étaient de la couleur ni de la même marque et elles avaient toutes l'air d'avoir 25 ans, t'avais des cintres cassés qui étaient posés sur des meubles, bref quelque chose d'absolument lunaire. La pelouse a été extrêmement critiquée toute l'année, le stade, les supporters strasbourgeois vont découvrir quelque chose d'assez unique en 2026. Ça sera un retour dans le passé pour plein de raisons, mais malheureusement avant tout pour la vétusté du stade. L'ambiance en elle-même, on l'a vu encore ce week-end face à la Real Sociedad, il y a une fusion entre le public et les joueurs qui est assez impressionnante, une fusion et une solidarité aussi face à la direction qui est très critiquée. Bref, il y a vraiment un contexte particulier qui rend les déplacements déjà, ne serait-ce que les déplacements là-bas, très difficiles et réputés pour être très difficiles en Espagne. Même la Real Sociedad ce week-end menait 3-1, ils se sont fait rattraper dans le temps additionnel en fin de match, malgré des faits de jeu qui allait contre le Rayo, etc. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie à donner, beaucoup de passion. Par contre, c'est une équipe qui, sur le papier, n'a pas évidemment le même effectif, Karine, qu'une équipe comme Strasbourg. Si tu regardes la valeur des deux, c'est 360 millions environ de valeur marchande pour Strasbourg, 106 pour le Rayo Vallecano. Donc c'est, il y a un monde d'écart, ce qui n'empêche pas que le Rayo a des très bons joueurs, ce qui n'empêche pas qu'il faudra surveiller un Essi Palasson qui a déjà joué des mauvais tours à beaucoup de grandes équipes en Espagne, un De Frutos qui était en sélection espagnole en début de saison. Ça n'empêche pas qu'ils ont une très bonne défense aussi sur le papier, même si elle a aussi des défauts, on l'a vu encore ce week-end. Voilà, c'est une équipe, je pense, très sérieuse. Pas simple à jouer pour Strasbourg, mais où, Karine, si on est 100% honnête, Strasbourg sera favori, et surtout s'ils arrivent à bien apprivoiser mentalement ce match aller et qu'ils arrivent à imposer leur jeu, il y a besoin de se méfier de cette équipe. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir une peur bleue de jouer le Rayo Vallecano.
Bon, écoute, Gilbert n'était pas très inquiet, là tu l'as rassuré, mais quand même, je tiens à dire qu'il y a seulement 3 défaites en 23 rencontres dans ce stade, donc c'est quand même compliqué. Et puis tu nous diras tout évidemment jeudi soir, on sera ensemble en avant-match, tu nous parleras notamment d'Issi Palasson, le milieu offensif qui a craint.
Oui.
Le joueur à suivre.
Le divin chauve.
On en parlera évidemment jeudi aussi
de la Liga.
De l'avant-match. Dans quelques instants, évidemment, les drôles de dames continuent avec Arsenal qui gagne sans convaincre, mais c'était un succès ô combien important face à Newcastle. L'Atlético a-t-il le droit à l'erreur? Et surtout, Grisou, est-ce que ça serait une saison qui tournerait très mal s'il y avait encore une fois zéro titre à l'issue de cette saison? On parlera également du scandale arbitral en Italie et puis le Borussia Dortmund qui malheureusement est pas mal. Ils sont deuxième, mais bon, c'est une saison peut-être à oublier. Il nous dira tout, Polo, on est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Karine Galli. Avec nos drôles de dames qui sont là, évidemment, Daniel Emanoussia est présent ce soir en studio avec nous pour nous parler de l'Italie. On est en Allemagne avec Polo Breitner, en Espagne avec Edgar Grolleux. On va tout de suite prendre la direction de l'Angleterre avec Julien Laurence. On va parler de l'opération maintien de Tottenham parce que les Spurs ont enfin gagné en championnat en 2026. Un succès précieux, mais peut-être pas suffisant, Julien.
Ouais, c'est vrai, on verra. Vu que la victoire de West Ham en même temps est arrivée en même temps quasiment, puisque les deux matchs étaient avaient débuté au même moment. Finalement, l'écart reste de 2 points encore entre Tottenham qui est toujours donc dans la zone de relégation et West Ham juste au-dessus avec 2 points d'avance. Même si à un moment, quand Everton a égalisé à West Ham et que Tottenham gagnait déjà, c'est eux qui sont sortis de la zone de relégation et qui avaient donc fait West Ham avait fait le chemin inverse. C'est vrai, c'est une victoire qui, encore une fois, hein, c'est pas forcément la manière, un petit peu comme la victoire de Chelsea dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils ont pas très bien joué, c'était pas encore génial. Ils ont gagné 1-0 sur un but de João Palhinha en fin de match, sur un corner, sur une deuxième phase de corner quasiment, on va dire. Mais ça c'est peu importe finalement comment ils ont gagné, qui a marqué et quel genre de but c'était. Le plus important, c'était vraiment de gagner. On a senti tout le soulagement qu'il pouvait y avoir. Et chez les supporters, et chez Roberto De Zerbi, et chez les joueurs, bien sûr, et même dans l'équipe dirigeante aussi, parce que tu l'as dit, ils n'avaient toujours pas gagné cette année. C'était la seule équipe en Angleterre dans les quatre divisions principales et professionnelles. Mais aussi, si tu comptes la 5e division, qui est quasiment professionnelle, c'est la seule équipe à pas encore avoir gagné en 2026. Leur dernière victoire, c'était au mois de décembre. Donc, ça fait beaucoup de bien, effectivement. Et en tout cas, on l'espère pour eux et pour les supporters. Ça peut enclencher peut-être une dynamique un peu plus positive, en tout cas. Ils vont aller à Aston Villa lors du prochain match, qui n'est pas gagné, forcément. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir gagné, même si le point noir de la journée est la blessure de Xavi Simons, qui s'est fait les croisés, le pauvre, en seconde période. La saison de Tottenham, c'est quand même plus de ligaments croisés chez leurs joueurs que de victoires à domicile en championnat. Il faut quand même le rappeler, c'est assez incroyable qu'ils aient perdu 3 joueurs sur des blessures aussi graves que des ligaments croisés et qu'ils ont gagné que 2 matchs à domicile cette saison. Ça vous montre un petit peu ça vous résume un petit peu la saison de Tottenham qui est catastrophique au niveau donc des blessures qui les a beaucoup handicapés forcément, des performances et des résultats aussi. Pour Xavi Simons, c'est dur forcément. Alors on voit beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux notamment. Où on voit effectivement Xavi Simons se blesser, le staff médical de Tottenham arriver, le faire trottiner, voire même courir sur le bord de la touche, le faire sauter. pour qu'il reprenne le match alors qu'il venait quand même de se faire les croisés, ce qui est assez incroyable en soi. C'est pas nouveau, ces problèmes de staff médical ou de staff médicaux, même si vous voulez, parce que c'est le troisième en 18 mois à Tottenham. Les staffs médicaux changent, mais clairement le problème lui ne change pas, parce qu'il y a encore énormément de blessures, comme la saison dernière, comme celle d'avant aussi. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là au niveau du club pour régler cette situation, parce que ça aurait rien changé de toute façon pour Xavi Simons. Ça a peut-être endommagé un petit peu plus sa blessure, mais finalement c'est assez incroyable de voir qu'après une telle blessure, un staff médical peut être aussi incompétent dans un sens.
Et on rappelle, c'était le troisième match de Roberto De Zerbi, donc le premier succès pour l'ancien entraîneur de Marseille. Est-ce que t'as, même si effectivement tu l'as dit, le but c'est juste de gagner, on s'en fout si c'est du beau football, est-ce qu'il y a un petit peu de mieux quand même?
Non, pas du tout, mais c'est encore une fois, c'est pas grave quoi. C'est pas ce qu'il recherche. Je pense qu'il a pas le temps non plus de mettre en place ce qu'il voudrait. Je pense que surtout il a pas les joueurs pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place dans le jeu. Il y a deux tirs cadrés pour Tottenham dans toute la rencontre. Donc l'autre c'est une tête de Bettencourt sur un corner. Et le but il vient sur un corner aussi. Donc en fait dans le jeu ils ont rien du tout dans le jeu. Ils ont perdu Solanke sur blessure également aussi, leur numéro 9, sûrement leur meilleur numéro 9 de l'effectif. Donc non, c'est très compliqué. Mais après encore une fois, je pense que ils vont se maintenir autrement que par le jeu. Mais ça on le savait déjà avant même qu'il arrive. C'est pas avec le jeu qu'ils se maintiendront. Il y a pas assez de temps, il a pas les joueurs pour et tout ça. Donc ils vont trouver d'autres ressources qui vont te permettre de gagner d'autres matchs pour pouvoir te maintenir. Et sincèrement, le match à Aston Villa dimanche prochain, je vois pas trop comment. Après ils vont recevoir Leeds qui sera déjà maintenu sûrement, c'est là où ça va jouer à mon avis. Après ils vont aller à Chelsea dans le derby, ils vont recevoir Everton lors de la dernière journée qui pourrait être encore eux aussi en course pour une place européenne quelque part. Donc il leur reste 4 matchs, ils ont 2 points de retard, ils ont une meilleure différence de but que West Ham. Donc ce sera à voir, mais pour l'instant la dynamique elle est plus pour West Ham que pour Tottenham.
On rappelle donc les Spurs qui sont toujours 18e après ce succès 1-0 face à Wolverhampton. On va parler d'un monument en péril, Polo, c'est Wolfsburg, 17e de Bundesliga. C'est une seule victoire lors des 14 derniers matchs. Ils sont aux portes d'une descente en deuxième division allemande, alors qu'il y a 10 ans tout pile, ils étaient quart de finaliste de Ligue des Champions.
Alors, si tu le permets, je vais te corriger, Karine. J'aimerais qu'on enlève la logique du monument à Wolfsburg. Wolfsburg a certes gagné une Bundesliga en 2009, mais c'est un club très particulier, petit stade de 30 000 places à l'échelle du football allemand. C'est ridicule. Ce qui est sûr, c'est que
Tu deviens dépressif très vite.
Oui, mais il y a pas que ça. Si tu veux, il faut bien comprendre ce que c'est que le club de Wolfsburg. Wolfsburg, c'est une filiale à 100% de la multinationale Volkswagen. C'était, moi, à l'époque, j'étais en Allemagne, c'était un astre mort, en fait. Personne n'en voulait. C'est comme des grands PDG qui ont envie d'acheter différentes sociétés. Wolfsburg, historiquement, le club de Wolfsburg faisait partie de l'empire de Volkswagen. Et un jour, il y a un PDG, Winterkorn, qui a vu l'évolution du football, qui est passionné par le football, et qui a décidé d'utiliser le club de Wolfsburg comme publicité, etc. Donc on a commencé à investir d'une façon très très importante, et c'est comme ça qu'est arrivé sous l'égide de coach Félix Magath le titre de 2009, puis ensuite par la suite le quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, victoire en Coupe d'Allemagne, etc. Et puis tu te rends compte qu'il y a quand même une spécificité dans ce club, c'est que il y a personne qui leur dit, chaque année ils ont l'une des plus grosses masses salariales d'Allemagne, et puis tu te rends compte que c'est pas pour ça que ça fonctionne. Ils ont déjà fini deux fois lors de la dernière décennie, deux fois 16e, donc deux fois barragistes, ils sont sauvés comme ça. Ils peuvent très bien être en Europe, comme ils peuvent se planter complètement, et là on a le sentiment qu'il y a personne pour sauver quelqu'un. Ils sont 17e au classement avec le 7e ou 6e budget de la Bundesliga, et surtout Félix Magath était ce week-end invité de cette fameuse émission Doppelpass. Donc lui, il faisait le parallèle avec le Bayern qu'il a entraîné, où il a gagné aussi, et Wolfsburg. Et il disait, c'est quand même marrant, quand j'étais... Donc ils avaient été invités au match contre Mönchengladbach, qui était assez pauvre, le 0-0 d'ailleurs. Et il disait que c'est moi, quand j'étais l'entraîneur, Winterkorn, donc le PDG de Volkswagen, tu vois, tu imagines qu'il a quand même beaucoup de choses à faire, et il allait le voir pour lui demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment on pourrait améliorer les choses, etc. Et il dit, Félix Magath, qu'aujourd'hui,
Il n'y a plus personne, en fait. On se fiche éperdument si ce club va descendre en seconde division. Évidemment, moi, j'ai une tendance naturelle à accuser les joueurs depuis pas mal de temps, et c'est un désaccord que j'ai avec Joshua Guilavogui, par exemple, qu'on reçoit amicalement dans le podcast After Allemagne, parce que quand tu vois les effectifs que chaque année à Wolfsburg, ce n'est pas acceptable d'être dans la dernière partie de classement et voire d'être tout en bas. Et en fait, Wolfsburg avait ce week-end l'occasion de repasser 16e. On a eu le droit à un match pourri. Le calendrier est très compliqué, mais à la J34, il y a Saint-Pauli qui est 16e, qui reçoit Wolfsburg. Ce sera peut-être l'occasion d'aller chercher la place de barragiste et de se sauver en barrage. Mais en tout cas, on se rend compte qu'avec les problèmes de Volkswagen aujourd'hui, vous savez que c'est une entreprise qui a d'énormes restructurations et de plans de restructuration des effectifs en Allemagne, et bien on ne sait pas vraiment quel va être l'avenir de ce club qui, pour moi, honnêtement, ne fait pas rêver. Quand tu as un actionnaire comme ça, qui est capable d'injecter des dizaines de millions d'euros pour chaque année pour te construire des équipes, et que le rendu sur le terrain, c'est ça. Enfin, on parle de joueurs, où on parlait du banc du Bayern, il y a une trentaine de joueurs à Wolfsburg, c'est quasiment tous des internationaux. Donc il faut arrêter un petit peu de se dire non, les pauvres, c'est difficile et ceci et cela. Donc c'est pour ça que c'est pas illogique ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de pression du public. Et c'est ce qui est terrible, c'est que ce week-end, et évidemment un peu comme à Sochaux à l'époque où il y avait Peugeot Citroën, c'est les employés de Volkswagen qui vont au stade. Et ben le stade n'était même pas rempli. Donc t'as l'impression que c'est, si Wolfsburg descend en seconde division, ça ne va déranger personne. Et moi je ferai un retour en arrière d'une trentaine d'années.
Bah écoute, j'invite en tout cas les gens à aller dans un hôtel absolument improbable autour de l'usine Volkswagen s'ils passent par Wolfsburg. Bon, il faut vouloir aller à Wolfsburg, hein, mais en tout cas cet hôtel est absolument incroyable. J'étais allé il y a quelques années, c'est une de leurs particularités. Merci beaucoup Polo, on va terminer cette première heure avec la minute de Daniele.
Il y a aussi du reggae italien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aussi ça.
L'Italie. On le découvre avec toi.
Ça tombe bien, parce que cette chanson elle s'appelle Partigiano John. C'est une référence à un bouquin de Beppe Fenoglio, Partigiano Johnny. Donc c'est une chanson qui parle de la résistance, au nazifascisme. Et c'est bien, parce que c'était le 25 avril en Italie, la fête de la résistance. Et en plus, ça m'aide, parce que c'est une chanson justement reggae, et ça m'aide à parler d'un joueur qui l'a marqué avec Parme, c'est un attaquant de Parme, il s'appelle Nesta Elfage. Il a marqué un but contre Udinese la semaine dernière, d'ailleurs très joli, avec un bon contrôle sur Soleil qui a sorti de la défense, et il ne s'attendait pas à ce bon contrôle de Nesta Elfage. Et il a marqué aussi contre la Fiorentina, c'est un joueur français, né dans Saint-Denis, qui a grandi en France dans des équipes de nationales. Il a travaillé pendant qu'il jouait. Il a fait un parcours un peu
cabossé. Un parcours haché, oui, avec plusieurs coupures.
Et après, là, récemment, il est passé de la Ligue 2 de Grenoble à Parme. Il a 25 ans, donc il n'est pas tout jeune. On ne sait pas très bien à quoi s'attendre. C'est un grand attaquant dans une équipe qui joue avec de longs ballons sur les grands attaquants Pellegrino et maintenant Nesta Elfage. En Italie, dès qu'on l'a vu, on s'est dit Nesta. Ben, ça doit être Nesta pour Alessandro Nesta, le défenseur mythique des années 2000 et tout ça. Et lui, plusieurs fois, il a dit ben non, en fait, c'est pour Bob Marley, qui s'appelle Robert Nesta Marley. Donc voilà, il y a cette jolie coïncidence. Et
parce que c'est son papa qui est fan de Bob.
Son papa, il est fan de Bob Marley et de reggae. Et ça, c'est une chanson du premier groupe de reggae en Italie, Africa Unite, qui s'appelle comme ça, pour une chanson de Bob Marley.
Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez découvrir effectivement l'histoire de cet attaquant français qui est donc en Serie A à Parme et qui vit de très beaux moments et qui avait donc marqué son premier but en Serie A il y a peu. Dans quelques instants, la deuxième heure des drôles de dames. On parlera évidemment d'Arsenal qui gagne sans convaincre avant la Ligue des Champions, mais c'était important pour les Gunners de retrouver le chemin de la victoire. Griezmann, est-ce qu'il doit absolument gagner la Ligue des Champions pour sauver son palmarès avec l'Atlético, parce qu'il y a une Ligue Europa et sinon c'est deux petites coupes. On parlera également de Dortmund et du FC Séville qui est au bord du gouffre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
il court, mais il sprint vers Pulido. Il lui met un coup de poing monstrueux. Non, mais c'est n'importe quoi.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
On est vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait Edgar.
20h-22h, Génération After.
On est ensemble pour une deuxième heure des Drôles de Dames et bravo à Polo, pas Polo Breitner, Polo qui est évidemment aux manettes de l'émission et qui nous a fait ce petit montage concernant le gardien de Saragosse qui avait pété un câble en tapant un adversaire en lui mettant un coup de poing. Vous avez vu, les avis sont partagés. On est avec un spécialiste de MMA et il est présent ce soir dans le studio, c'est Daniele Manoussam. Il nous parle également évidemment de Serie A. On est en Espagne avec Edgar Grollo. On est avec un homme qui n'est choqué par rien, évidemment, c'est Polo Breitner en Allemagne et puis l'Angleterre avec Julien Laurence. On va justement être en Angleterre avec toi, Julien, parce que c'était important. Arsenal a retrouvé le chemin de la victoire. Une victoire sans convaincre, mais une victoire importante. Un succès 1-0. Et puis le retour également de Bukayo Saka.
Ouais, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la journée, enfin du week-end en tout cas pour Arsenal. Finalement, il y a la victoire bien sûr qui compte dans cette course au titre assez incroyable avec Manchester City, parce qu'on l'a dit, ils étaient à égalité, donc avant le match d'Arsenal contre Newcastle samedi, à égalité de points, à égalité dans la différence de but aussi, légère avantage dans le terme de but marqué pour City. Donc on sait que ça devrait aller vraiment jusqu'au bout du suspense, etc. Donc c'était important de gagner déjà, il fallait. Idéalement, il aurait fallu marquer et gagner avec le plus grand écart possible, bien sûr, mais ça n'a pas été le cas parce qu'Arsenal a eu un petit peu de mal encore une fois dans le jeu, avec le ballon. Ils ont marqué un très joli but sur un coup de pied arrêté encore, mais cette fois joué différemment, vu la taille et la force physique de Newcastle, et les gabarits et le côté très athlétique de cette équipe-là. Ils ont joué leur corner de façon différente, au sol, court. Ça a très bien fonctionné puisque c'est comme ça qu'ils marquent, mais c'est vrai qu'après ça a été un petit peu plus laborieux encore une fois avec le ballon, même si on l'avait expliqué la semaine dernière, mais après le match contre City, on avait l'impression que peut-être ils avaient retrouvé un petit peu d'élan offensif collectif. On est retombé un petit peu dans les travers des dernières semaines et des derniers mois, côté Arsenal. Donc le retour de Saka, pour ça, va faire du bien. Le retour en forme de Martin Odegaard aussi, que j'ai trouvé bon samedi contre Newcastle, dans un rôle, j'ai l'impression que les gens oublient un petit peu parfois, le rôle d'Odegaard aujourd'hui, c'est pas de marquer 15 buts et de faire 15 pas décisifs dans la saison. C'est pas ce genre de joueur-là et c'est surtout pas ce qu'on lui demande, c'est pas son rôle du tout. Son rôle, c'est de fluidifier le jeu, d'être finalement le meilleur joueur entre les deux surfaces de réparation. C'est là où il est très fort d'ailleurs et ce qu'il fait très bien. Après, ça manque de créativité un petit peu, surtout qu'Eze est sorti un petit peu blessé, qu'Avert est sorti blessé aussi, donc on a eu Gyökeres qui est entré en jeu, Martinelli qui est entré en jeu, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, il fallait gagner, tu l'as dit, surtout dans la course au titre, bien sûr, parce qu'ils auront un autre match à domicile contre Fulham samedi, donc ils auront joué deux matchs de plus que City avant que City joue lundi, parce que lundi c'est jour férié en Angleterre, lundi prochain, c'est là où City va jouer son premier match de championnat, donc depuis le choc contre Arsenal. Donc à ce moment-là, Arsenal pourrait avoir 6 points d'avance et une meilleure différence de but, par exemple, donc ce sera vraiment intéressant à suivre. Mais en tout cas, avant d'aller à l'Atlético, c'était important de gagner et d'avoir le retour de Bukayo Saka, même juste pour 10 minutes.
Victoire donc après 3 matchs sans succès pour Arsenal. Et justement, on va en parler de ce déplacement, tu l'as dit. Ça sera sur la pelouse de l'Atlético mercredi, demi-finale aller de Ligue des Champions. Edgar, tu seras au stade hein, mercredi soir, tu nous feras vivre ce match. Et l'Atlético qui est sous pression parce que, eh bien voilà, il y a eu cette déception en finale de coupe. On l'avait vécu ensemble avec cette séance de tir au but complètement ratée. Et la question, c'est quoi? Est-ce que cette saison, tout simplement, peut mal tourner, encore une saison sans titre, et est-ce que finalement aussi le bilan de Grisou sera un petit peu légèrement décevant? On rappelle, hein, c'est 2014-2019, donc 5 saisons, il était parti au Barça, il est revenu en 2021, et au final, donc t'as la Ligue Europa, 2018 très bien, une victoire facile face à Marseille, mais sinon c'est qu'une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe de l'UEFA, donc il faut tout mettre sur la Ligue des Champions, ça va être compliqué là quand même, Edgar.
Ouais, alors disons qu'il faut séparer les deux. Il y a l'enjeu Griezmann et il y a l'enjeu l'Atlético, même si évidemment et tout le monde pousse pour le même objectif qui est de gagner cette Ligue des Champions. Déjà pour Antoine Griezmann, je pense que son plus grand succès avec l'Atlético, ça restera à jamais d'avoir réussi à entrer de nouveau dans le cœur des supporters de l'Atlético quand il est revenu après être parti pour le Barça, parce que beaucoup d'entre eux, faut dire les termes, le détestaient. et ne voulaient plus entendre parler de lui, et il a réussi à entrer de nouveau dans leur cœur. Et ça, juste ça, ça fait de lui une légende du club et quelqu'un d'apprécié unanimement au club. Et le fait qu'il ait réussi à faire ça, on pourra jamais lui enlever. Maintenant, je pense que pour lui, qui est un compétiteur, partir sans avoir gagné ni une Ligue des Champions, ni une Copa, ni une Liga, ça forcément, ça laisserait forcément un tout petit goût d'inachevé. Et quand on connaît l'héritage qu'il laisse derrière lui à l'Atlético, ce serait forcément dommage de partir sans ça. Maintenant, pour l'Atlético, mine de rien, ils sont mis dans une position extrêmement délicate. Je pense que l'échec de leur saison, ça a été de perdre cette finale de la Coupe du Roi. Ils ont fait le choix qui était justifié au moment où ils l'ont fait, de lâcher complètement le championnat. Ils vont terminer quatrième. Et donc, tu te retrouves dans une saison où tu pouvais gagner la finale de Coupe du Roi et être en demi-finale de Ligue des Champions, tu te retrouves avec une saison qui a pas du tout la même allure. Et tu te retrouves à un moment où tu peux avoir une déception tellement immense par rapport à la hauteur des attentes qu'il y avait sur cette fin de saison de l'Atlético. Évidemment, sur le papier, est-ce qu'être éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions pour l'Atlético, ce serait un échec? Non. Est-ce que être éliminé par Arsenal, qui joue le titre en Première Ligue, ce serait un échec, voire même une surprise? Non, pas du tout. Par contre, si tu perds en demi-finale de Ligue des Champions, que tu as raté cette opportunité de gagner la Coupe et que tu termines quatrième en Liga, eh ben oui, à la fin, ta saison, ce sera un échec et surtout, ce sera une déception immense pour les supporters quand tu connais le potentiel de cette équipe et quand tu connais les espoirs qu'il y avait il y a encore quelques semaines. Donc, ils sont mis presque dans une situation où ils sont obligés de faire l'exploit. Ils sont obligés de faire l'exploit parce que sinon, cette déception, cette saison, ce sera juste une addition de déception et de désillusion pour les supporters, comme malheureusement ils en ont connu trop par le passé ces dernières saisons, même s'il y a aussi eu des succès. Aujourd'hui, l'Atlético est obligé de faire un exploit pour sauver cette saison qui aurait tellement pu être supérieure et belle. Et je pense que s'ils avaient gagné la Copa, la demi-finale de Ligue des Champions, ça aurait été, j'ai envie de dire, presque du bonus, parce qu'au moins t'aurais eu déjà ce titre qui actait que cette saison entrait dans l'histoire récente du club.
Oui, cette finale qui a été très mal gérée. On rappelle, avec l'ouverture du score extrêmement rapide, l'Atlético a couru après le score pendant tout le match. Et puis finalement, il y avait eu cette séance de tir au but avec Leicester qui s'était raté d'entrée. Mais tu disais, ça serait pas forcément un échec face à Arsenal. Mais on le sait tous, bon, il y a le PSG Bayern, c'est une finale avant l'heure, c'est les deux favoris de la compétition. Est-ce qu'il y a vraiment un favori là entre l'Atlético et Arsenal, sachant que c'est deux équipes qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions? Est-ce que la pression, elle est plus sur les Espagnols ou sur les Anglais?
Je pense que la pression, elle est plus sur les Anglais, parce que tout ce qu'a raconté Julien depuis des mois, hein, ils ont cette saison incroyable au bout des doigts, et cette saison est peut-être en train de leur échapper. Maintenant, l'Atlético, c'est évidemment l'outsider des quatre. Donc, sur ça, on peut se dire qu'ils ont moins à perdre sur le papier, quand on se concentre uniquement sur la Ligue des Champions et pas sur tout le reste de leur saison. Pour moi, évidemment, Arsenal est favori de cette double confrontation. Est-ce que ça veut dire que je pense qu'Arsenal va passer? Pas forcément. Mais t'es obligé de mettre l'équipe qui joue le titre en Première Ligue comme le favori de cette double confrontation, surtout quand tu joues le match retour à Londres, à l'Emirates. Donc pour moi, Arsenal est forcément favori. Maintenant, l'Atlético a vraiment des atouts à faire valoir. L'Atlético, qui, contrairement à Arsenal, va absolument tout jouer sur cette fin de saison, sur cette compétition-là, et pas sur le championnat, comme ils le font tourner depuis des semaines. Et je pense aussi que, même en termes de talent, offensivement, t'as des joueurs qui vont être capables de poser des problèmes à cette défense, à cette très très bonne défense d'Arsenal. T'as un coach qui a énormément d'expérience aussi. Alors oui, il a jamais gagné avec des champions, mais il a l'expérience de ses demi-finales et il sait ce que c'est de les gagner et d'aller jouer des finales. Il en a déjà disputé deux dans sa carrière d'entraîneur. Donc est-ce qu'Arsenal est favori? Oui. Est-ce que je mettrais de l'argent sur Arsenal? Non, parce que cette équipe de l'Atlético peut les embêter. Le seul gros bémol sur les derniers jours que je soulignerais, c'est la rechute de Pablo Barrios, parce que pour moi, ça change tout quand il est là. C'est leur meilleur milieu de terrain, et surtout ça permet à Llorente d'être à droite, et je trouve que Llorente en milieu de terrain, Moi, je suis pas très très convaincu. C'est un bon joueur, mais c'est pas du tout le très bon joueur qu'on a sur le côté droit. Donc ça, c'est un vrai 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 souci pour l'Atlético de reperdre Barrios, et en plus de ça, individuellement pour lui, ça pourrait le faire manquer la Coupe du Monde. Donc c'est terrible pour lui ce qui s'est passé ce week-end, surtout dans un match sans enjeu face à l'Atlético.
Julien, le regard par rapport à l'Angleterre, est-ce que effectivement Arsenal est considéré comme le favori?
Oui, oui, je pense quand même, ouais, vu qu'ils ont gagné déjà 4-0 contre l'Atlético en phase de Ligue. Alors, c'était il y a longtemps, c'était des équipes qui jouaient différemment, enfin, c'était les mêmes équipes, mais avec des dynamiques différentes et le fameux momentum qui était assez différent. Mais oui, je pense qu'il y a ça, il y a le match retour à domicile déjà, qui, encore une fois, même quand il n'y a plus de but à l'extérieur, ça reste très important aussi. Donc, je pense que oui, ils sont pas forcément énormément favoris, mais ils sont favoris. Après, ce qui est amusant, mais c'est pas que en Angleterre, c'est quand tu regardes les deux demi-finales, il y en a forcément une qui est super excitante sur le papier et l'autre qui l'est beaucoup moins, le Simone via Arteta, où on va le regarder bien sûr avec attention, Edgar Isra, tout ça, tout ce qu'on veut, mais s'il y avait à choisir entre mardi soir ou mercredi soir, un seul soir, on choisirait tous le mardi soir, hein, donc oui. À voir ce que ça va donner, peut-être qu'on sera agréablement surpris, mon Edgar, et que tu t'endormiras pas non plus au Metropolitano et moi la semaine prochaine.
Ouais, je risque pas, hein, vu l'ambiance qu'il y aura.
C'est vrai, t'as raison. Au moins, c'est ça. Au moins, en tribune, ce sera bien.
Ce sera peut-être la plus belle ambiance de cette demi. C'est possible.
Sur le terrain, en général, voilà. On sait à quoi s'attendre un petit peu.
Daniele, tu partages effectivement l'avis d'Edgar et Julien. Pour toi, les Gunners sont favoris?
Ben, je sais pas, parce que effectivement, je pense que l'idée que la saison elle peut être perdue, ça s'est rentré un peu dans leur tête. Donc je pense qu'Atlético, c'est une équipe qui a.
Mais des deux côtés.
Mais l'Atlético, sur le plan mental, il est capable de faire des matchs de fou, quoi, de mettre vraiment le feu, surtout les matchs aller. Après, oui, c'est vrai qu'il y a les matchs retour à Londres, donc c'est un avantage, mais il pourrait sortir, le risque de sortir le premier match avec deux buts encaissés, et Arsenal, je ne sais pas si dans cette saison, ils n'ont jamais mis deux buts dans un seul match.
Ça sera mercredi la demi-finale aller. Tu ne nous as pas dit ton ressenti, Polo, toi, d'Allemagne. Alors évidemment, tu vas être focalisé sur demain soir, ce PSG-Bayern qui nous ravit tous d'avance, mais tu trouves que l'Atlético a les armes pour détruire Arsenal?
Moi, je suis comme Daniele, moi. C'est-à-dire que l'Atlético, s'il y a une équipe qui peut bien embêter, non pas Arsenal, mais n'importe quelle équipe dans le monde, c'est l'Atlético. Simone, il le fait ça il y a des années, il fait ça depuis des années. Est-ce qu'il le fera, ça c'est autre chose. Par contre, pour le coefficient UEFA, vaut mieux que Arsenal l'emporte demain, mercredi, pardon.
Pour
les Allemands.
Ah d'accord, oui, tu penses évidemment.
Voilà, c'est une place supplémentaire, des choses comme ça, voilà.
D'accord, très bien. On va partir avec toi en Italie avec un nouveau scandale. Tu vas tout nous expliquer, Daniele, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a Gianluca Rocchi qui est chargé de désigner les arbitres pour les matchs des compétitions nationales italiennes. Et il se retrouve au centre d'une enquête du parquet de Milan. Et c'est une enquête qui fait évidemment une affaire qui fait trembler le foot italien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui est reproché à Gianluca Rocchi exactement?
Alors, quelques mots. Pour le moment, il y a plusieurs arbitres qui sont impliqués, dirigeants d'arbitres. Gianluca Rocchi, c'est le désigneur, mais c'est en gros le chef des arbitres. Alors, il lui a reproché d'avoir en deux fois choisi un arbitre favorable à l'Inter pour deux matchs, et une troisième fois d'être intervenu pendant la salle de VAR regardait une occasion, un pénalty pendant Udinese-Parme. C'est que des matchs de la saison dernière, hein. D'être intervenu en toquant à la porte pour faire comprendre qu'il fallait siffler un pénalty. Et ça, il ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est la justice ordinaire qui fait une enquête pour fraude sportive. C'est quelque chose d'assez grave. Rocchi l'a démissionné en attendant d'être écouté parce qu'il a...
Parce qu'il est mis en examen, là.
Il est mis en examen pour la justice ordinaire. Il va peut-être mis en examen pour la justice sportive. C'est deux choses différentes. Il faut se rappeler de ça. Ça peut mener à deux conséquences complètement différentes. Pour le moment, il accuse d'avoir favori l'Inter, c'est-à-dire d'avoir choisi un arbitre que l'Inter préférait à un autre arbitre. Mais l'Inter, elle n'est pas du tout impliqué dans l'affaire, ni des dirigeants ni d'autres personnes. Pour le
donc
moment,
pourquoi l'Inter se retrouve mêlé à cette affaire, alors que évidemment ça arrive 20 ans après le Calciopoli qui avait marqué les esprits évidemment du football italien, mais pas que. Là, à l'époque, c'était notamment la Juventus. Là, pourquoi c'est l'Inter qui est sous le feu des projecteurs?
Parce que justement, on comprend pas trop bien. C'est-à-dire, pour le moment, il y a vraiment peu de choses. Il y a ces deux matchs qu'en plus l'Inter après il a perdu, parce que c'est les matchs contre Bologne en championnat où l'Inter il a perdu le championnat. Ils étaient à un point de différence avec Naples, ils ont perdu. Il y a eu même un but disputé par Inzaghi pour un choix de l'arbitre. Donc, c'était pas un match que l'Inter il a gagné grâce à l'arbitre. Non, elle a perdu. Peut-être même pour la faute de l'arbitre, où l'arbitre il les a pas aidés, quoi. Et après, c'était la demi-finale des retours contre le Milan. Là, c'est encore plus compliqué, encore plus bizarre l'idée que l'accusation qu'ils font. C'est-à-dire, ils accusent Rocky d'avoir choisi un arbitre pour le faire arbitrer la demi-finale contre le Milan, donc un derby, pour faire qu'après, il n'était pas en finale. Comme si l'Inter, elle avait déjà la tête à la finale. L'Inter, elle a perdu la demi-finale, elle n'a pas joué la finale. C'est très, très bizarre tout ça. Mais attention, parce que aujourd'hui, le Corriere della Sera, ils ont dit que l'enquête de la justice ordinaire, elle est précédente à l'enquête de la justice sportive qu'ils avaient fait sur ces mêmes choses l'année dernière. Donc, il pourrait y avoir d'autres choses. Il pourrait y avoir comment dire, d'interception au téléphone. Donc, il pourrait y avoir beaucoup plus. Et ça pourrait, finalement, il pourrait y avoir un moment où elle serait impliquée l'Inter. Mais donc, ce qu'on comprend pas, c'est de rien du tout. Une petite chose qui est née peut-être en part d'un arbitre des touches qui a fait la première dénonciation. On ne comprend pas ça non plus. Donc, ça pourrait être rien du tout. Ou ça pourrait être quelque chose de très grand qui finalement va pas seulement peut-être impliquer l'Inter. Pour le moment, il y a pas cette possibilité pour le moment, mais on découvre de nouvelles choses à chaque heure.
Oui, l'enquête est en cours.
Oui, mais il y a surtout peut-être des conséquences politiques. Et c'est peut-être aussi lié, c'est les conséquences politiques, mais c'est peut-être aussi des raisons politiques parce que le ministre du Sport, après la défaite contre la Bosnie, il avait déjà essayé de, comment dire, prendre le pouvoir au sein de la fédération, où il n'y a plus le président parce qu'il a démissionné. Il va y avoir une votation le mois de juin. Et il pourrait peut-être profiter de ça pour pousser les CONI, qui c'est le Comité Olympique National Italien, pour mettre sous tutelle la fédération. Donc, il pourrait y avoir un jeu politique derrière tout ça. Évidemment, les supporters, ils s'intéressent pas à ça. Ils s'intéressent juste à l'Inter, qui est, c'est l'équipe qui était sortie, on va dire, propre, de Calciopoli. Donc, les supporters de la Juventus, ils disent, vous êtes toujours honnêtes, maintenant c'est à vous de payer. Les supporters de l'Inter, ils disent, il n'y a rien du tout, on a perdu ces matchs-là, donc il n'y a rien du tout, on ne comprend pas. Et bon, c'est encore une fois la crédibilité du football italien, surtout qu'elle paye tout de suite. Et en ce moment, l'Italie, elle n'a pas des présidents de fédération.
Oui, parce qu'on rappelle que Gravina, donc, qui était le président de la Fédération italienne de football, a démissionné. Qu'Antonio Zappi, le président de l'Association italienne des arbitres, est suspendu depuis janvier. Donc, il y a un manque de dirigeants à la tête des instances.
Voilà, oui. Donc, ça montre un peu l'état structurel dont on parlait tout à l'heure avec Polo du football italien. Imagine le cas où c'est effectivement le ministre du sport qui prend un cas, qui le pousse autour, ou si c'est pas le ministre en personne, c'est d'autres personnes à l'intérieur du CONI ou du ministère ou de la fédération qui font tout ça pour prendre le pouvoir. Imagine qu'est-ce que ça signifie de tellement peu qu'ils aiment le football italien et qu'ils s'intéressent à ça. Parce que c'est quand même un scandale que ça donne un peu, c'est un peu le coup final sous cette saison.
Un nouveau scandale peut-être, donc 20 ans après le Calciopoli. Merci beaucoup Daniele. On va terminer cette partie avec la minute de Julien.
Joy Division.
Bien, bravo. Je laisse un petit peu. Juste pour la voix légendaire, bien sûr, chanteur de Joy Division. Bravo Daniele, hein, je pense que Polo est sûrement reconnu aussi.
Il n'y a plus de musique depuis la fin de Joy Division, quand même, faut le dire.
C'est vrai aussi, c'est vrai mon Polo. J'ai pensé à toi d'ailleurs quand j'ai choisi celle-là. Et en plus, pour une fois, c'est pas un coup tordu, hein, parce qu'on va parler de Rochdale. Et cette chanson Atmosphere, donc de Joy Division, a été enregistrée à Rochdale, qui est dans la banlieue de Manchester. Parce qu'on a eu un match assez incroyable samedi après-midi entre Rochdale et York, donc des clubs de 5e division, la National League en Angleterre. parce que c'était la dernière journée de championnat pour la National League, la 5e division, et que York était premier avec 107 points et Rochdale deuxième avec 105 points. En gros, Rochdale gagne à domicile contre York, il monte directement en League 2, donc la 4e division anglaise. Tout autre résultat, victoire de York, match nul, et c'est York qui monte donc, et Rochdale qui se retrouve en play-off comme dans toutes les divisions anglaises. Tout ce qu'on veut. Donc on attendait avec beaucoup d'impatience ce match-là. Forcément, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de qualité dans la 5e division anglaise. Et donc c'est pas passé beaucoup de choses techniquement parlant et dans la qualité du jeu jusqu'à la 95e minute. L'arbitre avait annoncé 7 minutes d'arrêt de jeu. À la 95e minute, Rochdale, donc dans leur stade, marque le premier but d'une tête au deuxième poteau, sur un centre, explosion de joie dans le stade, comme vous imaginez. Il reste 2 minutes à jouer encore. Hein. Et là, alors il faudra m'expliquer comment et pourquoi. Je comprends bien qu'à ce moment-là, tout le monde dans le stade, les supporters, croient vraiment qu'ils vont monter, qu'ils vont gagner ce match-là, mais il reste encore une fois 2 minutes. Donc, envahissement de terrain, pardon, c'est ça que je cherchais, envahissement de terrain de la part des supporters de Rochdale. Donc, forcément, il y a du monde partout, sur le terrain, ça s'embrasse, ça fait des câlins, tout ce que vous voulez, etc. Mais ça interrompt le jeu aussi pendant longtemps. Donc l'arbitre met un petit peu de temps à renvoyer tout le monde en tribune, puisqu'il reste encore 2 minutes. C'était pas le coup sifflé final, il reste encore 2 minutes à jouer. Sauf que ces 2 minutes là se sont forcément transformées en plus longtemps, puisqu'il a fallu faire sortir tout le monde, etc., etc. Et que, bien entendu, vous pouvez vous imaginer, à la 103e minute, donc à la 13e minute des arrêts de jeu, York égalise, un but en plus bien en bois avec des frappes contrées. On n'est pas sûr si le ballon a bien franchi la ligne, on dirait qu'il a franchi la ligne, etc., etc. Et donc là c'est les supporters adverses qui eux exultent, qui eux entrent sur le terrain 5 minutes après ou 7 minutes après que ce soit les supporters de l'équipe à domicile qui soient entrés sur le terrain. Donc on a eu deux envahissements de terrain, deux moments où les deux équipes ont cru qu'elles étaient championnes donc et promues. Et donc au final c'est York qui a brisé le cœur de tous les supporters de Rochdale et les supporters et les fans de Joy Division.
Aïe, aïe, aïe. Le football est cruel, messieurs, bien évidemment. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir raconté cette histoire de montée. Dans quelques instants, on sera en Allemagne. On va parler de la saison de Dortmund. On parlera de Leicester. Ça aussi, les supporters sont évidemment meurtris de la Ligue des Champions à la 3e division. Leicester qui descend une nouvelle fois, qui est rétrogradé. Et on parlera d'un club qui est en grand danger également. C'est le FC Séville qui est au bord de la 2e division espagnole. Ne bougez pas, les drôles de dames, c'est jusqu'à 22h. Sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
On est ensemble avec Daniele Manoussia qui est présent ce soir en studio pour nous parler de l'Italie. On est en Angleterre avec Julien Laurence, en Espagne avec Edgar Grollo et nous sommes en Allemagne avec Paulo Breitner. On va parler d'un club allemand qui est deuxième de Bundesliga, c'est le Borussia Dortmund. Mon cher Paulo, ils ont été éliminés en barrage de Ligue des Champions par l'Atalanta Bergame. Que dire de cette saison qui finalement est un peu une saison pour rien? C'est comme ça que les supporters, les observateurs la voient.
Bah, c'est un petit peu comme ça que beaucoup de personnes analysent cette saison de Dortmund. Alors, à tort ou à raison, encore une fois, parce que moi, je constate tout de même que 67 points après 31 journées, c'est quand même 2,16 points par match. C'est assez rare de voir en Bundesliga un second avec ce nombre de points en fin de saison. C'est-à-dire que le Dortmund n'a perdu que 4 matchs en Bundesliga, les deux contre le Bayern, malheureusement. Et les deux, c'était lors de la 29e et 30e où Dortmund n'avait besoin que très peu de points pour se valider sa prochaine participation à la Ligue des Champions. Mais là où tu as raison, c'est que la double confrontation contre l'Atalanta n'est pas passée. Hein, il y avait eu 2-0 à l'aller, rappelez-vous, 4-1 au retour, on n'a pas bien compris à ce qui s'est passé. Or, le Borussia Dortmund vivait un petit peu avec la Ligue des Champions. Ils n'ont fait aucun exploit d'ailleurs cette saison, excepté peut-être que Daniele s'en souvient, le fameux 4-4 lors de la première journée de la phase cette année, qui était un match assez extraordinaire, et pourtant le Borussia Dortmund menait largement. Mais il n'y a eu aucun exploit en Ligue des Champions.
La Juve,
en huitième de finale à domicile de Coupe d'Allemagne qui était là, un objectif très important, ils ont trouvé le moyen de perdre à domicile donc contre Leverkusen. Et donc finalement tu te dis, mais c'est quoi ce Borussia Dortmund? Et puis il y a le style de jeu de Niko Kovac quand même. C'est-à-dire qu'on s'enquiquine beaucoup. Et c'est pas tout à fait l'ADN du Borussia Dortmund et de ses 80 000 spectateurs. Il faut aussi du jeu, il faut que ça avance. On sait pas non plus quel va être le visage de ce Borussia l'année prochaine. Parce que Guirassy est annoncé plus ou moins partant. Adeyemi, on sent qu'il est plus, s'il y a une bonne offre, il partira aussi. Julian Brand ne sera pas prolongé. Schlotterbeck, qui a prolongé au Borussia, mais avec une clause de départ possible cet été, qui a fait polémique d'ailleurs, ben, on verra bien ce qui va arriver. Tout ça fait que ce Borussia Dortmund, ben, la saison 2025-2026, comme c'est une équipe qui n'est pas spécialement jeune, ben, c'est pas une question d'expérience prise par des espoirs qui vont réussir à s'imposer en Bundesliga notamment. Donc, on sait pas trop où ça va, en fait. Et c'est, pour moi, c'est une saison perdue parce que je commencerai la saison 2026, la première journée, comme je commencerai la première saison 2025. Ben, so what? Qu'est-ce que ça va donner cette saison? Et je considère vraiment que cette année, en fait, n'a rien apporté au Borussia Dortmund. En plus, les dirigeants ont dit que comme ils ont été éliminés en barrage de Ligue des Champions, ben c'est de l'argent en moins et donc ils veulent pas spécialement investir. Donc moi j'ai un vrai problème avec la philosophie du Borussia parce que lorsqu'ils sont en finale de Ligue des Champions, ils investissent pas non plus. Donc au bout d'un moment, faut se poser la question à quel moment ils souhaitent investir. Il y a différentes personnes qui ont été dégagées cette saison de l'organigramme du Borussia, mais honnêtement, 67 points en 31 journées, c'est génialissime, faut le dire, c'est quand même assez rare. Mais dans le jeu et dans ce que ça produit comme émotion au sein des supporters et pour même des personnes neutres comme moi sur le Borussia, il y a rien du tout. C'est-à-dire, c'est un fantôme. En Ligue des Champions, le Borussia était un fantôme. Encore une fois, moi, je n'ai pas digéré l'élimination face à l'Atalanta. Et puis, bon, encore une fois, la Coupe d'Allemagne, qui était un objectif, ben, c'est fini en huitième de finale à domicile.
Et par rapport à ce que tu dis, est-ce que, donc, Kovac pourrait être viré à l'issue de la saison? Alors, tu me dis qu'ils veulent pas dépenser d'argent, et forcément, ça coûte de l'argent quand tu limoges quelqu'un, mais est-ce qu'il pourrait partir sur un nouveau cycle?
Le problème, c'est que le Borussia Dortmund devient en fait l'équivalent de Fornox, quoi. C'est-à-dire que ça devient une banque. Ça devient une banque qui, tout simplement, année après année, sait très bien, et c'est tout le problème de son positionnement européen, c'est une équipe qui n'est pas dans les 8 meilleures équipes européennes, mais peut très bien aller en quart de finale. Donc, à partir du moment où on tient les objectifs, où on est en Ligue des Champions chaque année, en disant ça va aller mieux l'année prochaine, etc., bah, c'est difficile de se séparer comme ça de Niko Kovac. Maintenant, il fait pas l'unanimité, Niko Kovac. Sauf que il a relevé le club l'année dernière, il a requalifié pour la Ligue des Champions d'une façon extraordinaire. Là, c'est sa véritable saison à lui où on voit ce qu'il est capable de faire. Donc, il y a des moments, c'est assez impressionnant. Encore une fois, en termes de points, mais en termes de spectacle, on n'y arrive pas. Et je ne vois pas, sauf tremblement de terre au Borussia Dortmund, je ne vois pas la direction se séparer à court terme de Niko Kovac.
Merci beaucoup, Polo. On va parler d'une catastrophe, Julien, avec toi. 10 ans après son titre de champion de Premier League, ben Leicester vient d'enchaîner une deuxième descente de suite. Et donc là, c'est la troisième division pour Leicester la saison prochaine.
Ouais, c'est vraiment très triste ce qui est arrivé à ce club. C'est un rappel déjà, c'est un bon rappel pour tout le monde que tu peux être tout en haut, mais si t'as pas les fondations de ton club qui sont solides et saines, ça peut très vite tourner dans le mauvais sens. Et c'est exactement ce qui est en train de vivre Leicester, parce que c'était donc le conte de fées absolu il y a 10 ans de remporter la Première Ligue. C'est peut-être la plus belle histoire. Surtout dans ce football moderne là, on va dire des 50 dernières années à peu près, qu'un club pareil puisse au nez à la barbe des très grands clubs anglais d'aller s'imposer comme ça, alors que la saison précédente ils se battaient pour pas descendre, et que là ils arrivent avec un très bon recrutement, les arrivées de Mahrez ou de N'Golo Kanté, l'arrivée de Ranieri bien sûr aussi, la trouvaille Jamie Vardy, tout ça, d'aller remporter ce titre de champion. Et donc effectivement, tu l'as dit, 10 ans plus tard, ils joueront la saison prochaine en Ligue 2, puisqu'ils sont déjà d'ores et déjà relégués. Il reste qu'une journée en Championship de toute façon, après une saison sincèrement cauchemardesque, hein, où rien n'a fonctionné pour eux du tout. Ils vont finir potentiellement à 10 points du premier non relégable. Donc c'est vraiment une saison très très pauvre de la part de Leicester, où finalement depuis maintenant, même avant le retour en première ligue, déjà avec Maresca qui vraiment avait été le bon entraîneur à ce moment-là pour ressortir cette équipe un petit peu du marasme après le départ de Brendan Rodgers. Mais depuis le départ de Maresca pour Chelsea, et encore une fois, on pouvait pas lui en vouloir non plus d'avoir choisi de laisser Leicester derrière lui pour aller rejoindre Chelsea, un club pareil et un projet pareil. Sauf qu'il a été mal remplacé, très mal remplacé par les propriétaires. Le manque de compétences, hein, je suis désolé, mais je sais pas si on a des supporters de Leicester qui nous écoutent, mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi. À beaucoup de niveaux, dans beaucoup de niveaux du club, ce manque de compétences finalement, de professionnalisme, leur a coûté très cher. Ils ont, il y a un an de ça, inauguré leur centre d'entraînement qui est magnifique.
Qui a l'air absolument dingue quand tu regardes des photos. C'est magnifique.
Incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Alors que celui d'avant, j'étais allé à l'époque d'Engolo et de Riyad. C'était vraiment un truc à l'ancienne qu'on trouve en Ligue 2 ou en National chez nous. Et donc là, en plus, ils étaient dotés d'un outil magnifique pour faire travailler les jeunes, les pros. Voilà, pour être dans les meilleures conditions possibles. Et au final, tu t'es encore relégué. Parce que même dans tes changements d'entraîneur, t'as jamais su trouver le bon entraîneur qui pourrait inverser la tendance. Et donc, c'est vraiment catastrophique. On en parlait l'autre soir avec Gilbert et, je sais plus quel jour c'était. Pour vous dire à quel point ils ont fait n'importe quoi quand même. Parce qu'à un moment, tu peux gagner et tu peux, peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre parfois. Ça, tu peux le comprendre. Mais ils ont quand même à un moment donné des salaires exorbitants à des joueurs qu'on n'avait pas la valeur, qui le méritaient pas du tout. La saison dernière, Leicester City était la 16e masse salariale la plus élevée en Europe. Leicester City, plus gros que beaucoup de clubs espagnols, anglais, autres clubs anglais, mais surtout espagnols, allemands et italiens. C'était juste incompréhensible à quel point ils avaient pu donner des salaires, que ce soit en deuxième division, enfin donc en championship, ou même en première ligue à l'époque, des 150 000 euros par semaine, 180 000 euros par semaine à des joueurs, à des joueurs claqués, à des vrais pipes. Et aujourd'hui, forcément, à un moment, quand tu gagnes plus, que t'as plus l'argent des droits télé en première ligue, et que tu descends en championship, et ensuite encore pire maintenant en League One, forcément ta masse salariale elle revient et elle te fait très très mal, et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Et là, sincèrement, je sais pas quand ils vont remonter, mais ça va être vraiment vraiment compliqué pour eux à mon avis de remonter, parce qu'ils vont perdre leurs meilleurs joueurs. Il y a des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont être obligés de vendre pour pouvoir équilibrer les comptes, et ça va faire très très mal.
Et Julien, dans l'histoire de Leicester, donc il y a évidemment ce sacre magique il y a 10 ans, il y avait eu aussi la mort du propriétaire, ça c'était en octobre 2018. Est-ce que il y a des conséquences de la mort du propriétaire et de cette façon de gérer le club complètement à l'envers comme tu viens de nous le décrire?
Sincèrement, je sais pas. Ils ont gagné la Coupe d'Angleterre, par exemple, après le décès du propriétaire. C'était une grosse tragédie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais
le crash du stade avec son hélicoptère.
Oui. Voilà, exactement. Donc, ils s'en sont remis après. Alors, c'était très dur. Ça doit être encore très, très dur, parce que notamment son fils a repris, les commandes du club, entre guillemets. Enfin, c'est déjà son fils qui faisait beaucoup, même quand le père était vivant. Mais ils ont gagné la Coupe d'Angleterre après. Ça continuait à plutôt bien tourner avec Brendan Rodgers, par exemple. Donc, je sais pas si c'est une des raisons qui fait que là, depuis maintenant 3 ans, ils se sont effondrés complètement. Mais oui, ça avait été compliqué à gérer, bien sûr. Mais après, il y a eu tellement d'erreurs faites à tous les niveaux, partout. C'est triste, hein. C'est vraiment triste, parce que c'est un beau public en plus. C'était une telle belle histoire. Et qu'aujourd'hui, finalement, tu te rappelleras bien sûr du titre de 2016. Et ça, on pourra jamais leur enlever, cette équipe-là, qui était quand même incroyable, de Ranieri, tout ce qu'on veut. Mais ce sera aussi suivi de très près par, ah oui, mais rappelez-vous après ce qui s'était passé. Ça avait été la dégringolade complètement, et ils étaient partis dans les abîmes du football anglais. Et c'est ça, en fait. Et c'est triste, parce que les autres qui sont champions sur les 20 dernières années, il leur arrive pas, ça. Et ça aurait pas dû arriver à Leicester City non plus.
Et petite pensée pour Jordan Ayew, qui a connu 5 relégations avec 4 clubs différents.
Ah, l'ancien
Marseille. Ouais, ouais, il a un petit côté effectivement chat noir. La minute de Paulo Breitner.
Un peu de musique classique et en plus de la musique classique contemporaine. Florian Christel, un Munichois de 35 ans qui a écrit
cette musique qui avec un titre particulier qui est Irweg, c'est l'impasse, en faire fausse route. Alors pourquoi j'ai choisi cette musique, c'est que c'est le genre d'interview que j'adore en Allemagne lorsque les grands patrons du foot allemand font le bilan de la Bundesliga et en profitent un petit peu pour faire le bilan européen. Je peux vous assurer qu'on est loin des incantations de la LFP et c'est à l'allemande, il y a des chiffres, il y a des explications, qu'est-ce qu'on va faire demain, etc. Et là, ce qui me plaît dans l'interview de Stephen Merkel et de Mark Lenz, qui sont les deux DG de la Ligue, de la DFL, donc de la Ligue allemande de football, c'est qu'ils ont expliqué un petit peu ce qui est en train de se passer dans le football européen, en disant que les apports en capitaux, ce qui s'est passé entre la période 2014 et 2024, il y a eu à peu près 15 milliards d'euros qui ont été investis, soit par des fonds d'investissement, soit par des propriétaires, et qui disent que ce modèle financier pour le football européen est dramatique et que ça conduit à une impasse. Et en gros, ce que disent les responsables du football allemand, c'est qu'aujourd'hui, déjà, ça fausse les compétitions, évidemment, parce qu'on laisse des propriétaires faire ce qu'ils veulent avec leur argent, etc., sauf qu'il y a des personnes qui sont en face, il y a des clubs qui sont en face et qui fonctionnent avec l'exploitation, et surtout que ça n'a strictement rien donné, comme d'habitude. Donc ça, c'est un peu un cheval de bataille que j'ai depuis des années, où on laisse faire le capital comme ils ont envie dans le monde du football. Ils expliquent surtout que ce qui est terrible, c'est que malgré le Covid, l'Espagne n'a quasiment fait aucun effort au niveau de la situation de ses comptes. En Italie, on n'en parle même pas. En Angleterre, j'en ai parfois parlé avec Julien, le problème, on dit toujours oui, mais ils ont plus d'argent via l'exploitation, ce qui est juste, notamment avec les droits télé internationaux, mais en plus on permet aux propriétaires de mettre au pot, et après on s'étonne que différents clubs, je pense à Chelsea ou autres, ont des problèmes par rapport au fair play financier. Et donc je trouvais très intéressant le football allemand qui explique aux autres en gros ce qu'il faudrait faire quand même, parce que le modèle allemand, même s'il n'est pas parfait, c'est bizarre, mais j'ai des clubs qui sont relativement sains, et financièrement parlant et économiquement parlant. Donc je trouvais que cette interview, qu'on a le droit une fois tous les 12 mois, une fois tous les 18 mois, toujours intéressante lorsque le football allemand fait un bilan de ce qui se passe en Europe.
Merci beaucoup Polo. Vous savez qu'actuellement il y a Manchester United qui est en train de jouer face à Brentford, et pour l'instant United mène 2-0. United qui conforte sa 3e place au classement, 19e passe décisive de Bruno Fernandes, et Najib, qui connaît tout sur tout au foot, me rappelle qu'il est à seulement une unité du record qui est de 20, qui est co-détenu par, messieurs, vous l'avez, les deux joueurs? Non, personne. Un Belge, un Français? Non.
De Bruyne, c'est moi, je l'ai, mais je vais pas le.
De Bruyne et donc autres. Un Français également.
De Bruyne et Harry.
Thierry Henry, oui, bien sûr, j'ai compris. Henry. Harry, je pensais à Harry Kane, je ne comprenais plus. Effectivement, bravo messieurs, donc 2-0 pour l'instant pour Manchester United. Dans quelques instants, on partira en Espagne avec le drame. Moi, ça me met, mais dans un état, le FC Séville est au bord du gouffre. Mais je suis sûr qu'ils vont se maintenir. On en parlera avec Edgar Grosleux, et on parlera également de l'équipe de la Roma qui est en pleine crise à nouveau. Ranieri est parti, Gasperini est conforté. On en parle dans les Drôles de Dames. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
On est ensemble pour encore quelques minutes avec Daniele Manuccia pour l'Italie, qui est à mes côtés en studio, avec Polo Breitner pour l'Allemagne, avec Julien Laurence pour l'Angleterre, et avec l'Espagne pour Edgar Grosleux. Et juste après, vous aurez évidemment l'After Foot, Gilbert Bribois et toute sa bande. Edgar, je me tourne vers toi et on va parler du FC Séville. C'est le drame. Défaite 2-1 face à Osasuna ce week-end. 17e défaite de la saison pour le club andalou, qui est vraiment au bord d'une relégation en deuxième division. Mais non, ça va aller.
Non, ça va pas aller, Karine.
Non,
je suis désolé de t'inquiéter, mais alors là, c'est en fait objectivement, réalistiquement, si tu regardes et tu regardes les dynamiques des différentes équipes, le classement actuel, le calendrier à venir et la qualité des effectifs.
Le but encaissé à la 99e minute. Non, mais rien ne va. Je sais.
Par exemple, il y a aucune raison aujourd'hui, de manière réaliste, de penser que le FC Séville va se sauver. On a déjà vu plus fou dans l'histoire du football, effectivement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de parier sur un maintien du FC Séville. C'est toujours jouable, hein, pour vous donner un petit peu le classement actuellement. Séville a 34 points et est 18e. Mallorca en a 35. Alaves en a 36. Donc sur le papier, c'est totalement jouable. Mais quand tu regardes les équipes qui vont jouer, Séville, Real Sociedad, Séville, Espagnol, c'est peut-être le match le plus abordable sur le papier parmi ceux qui leur restent. Villarreal, Séville, Séville, Real Madrid, et après dernière journée déplacement au Celta Vigo qui pourrait avoir la Coupe d'Europe à jouer potentiellement sur cette dernière journée.
Mais ça, c'est l'absence d'Azpilicueta, c'est terrible. Quand il est blessé, Séville va pas bien.
Il sera de retour. Ah, il sera de retour face à la Real Sociedad, ouais. Donc ça peut compter et c'est intéressant d'ailleurs parce que son coach Luis García Plaza disait c'est pas forcément sur le d'abord sur le footballistique qui nous manque mais et surtout sur l'expérience qu'il a et sur la façon dont il peut aider le groupe à gérer ce moment-là de la saison. Mais ce qui est terrible pour le FC Séville, c'est quand on regarde un petit peu historiquement et quand on regarde au 21e siècle. Alors la dernière fois qu'ils sont descendus, c'était lors de la saison 2000-2001. Depuis leur remontée dans la foulée, donc en 2001, ils sont descendus en 2000, ils sont remontés en 2000-2001, et donc depuis 2001, ils sont en Liga. Eh bien entre 2001 et 2022, ils ont systématiquement été dans le top 10 de la Liga, sans la moindre exception. Et depuis 11e, 13e, 17e et aujourd'hui 18e pour
l'an dernier, ils ont frôlé la catastrophe en étant 16e.
Ils ont frôlé la catastrophe, ça montre la décadence aujourd'hui de ce club-là, mais surtout quand tu vois les éléments et quand tu vois ce qui s'est passé ce week-end, tu l'as dit, ce but à la dernière minute, c'est le genre de choses où tu dis bon bah voilà, et but comme ça en fin de match alors que tu mènes 1-0 jusqu'à la 79e et tu craques comme ça sur la fin, tu dis c'est le genre de match qui te font basculer aussi une saison vers la relégation. Mais surtout ce qui est intéressant et ce qui est important sur ce match-là, c'est que le contenu proposé sur la pelouse d'Osasuna était beaucoup plus intéressant que lors des derniers matchs, et que malgré ça, malgré une attitude des joueurs qui était beaucoup plus intéressante, malgré le fait que tu as fait un match extrêmement sérieux jusqu'à la 80e minute de jeu, tu arrives à perdre et tu repars bredouille de ce genre de déplacement face à un très bon adversaire. Mais ces déplacements sur la pelouse d'Osasuna, quand tu vois les adversaires qu'ils ont à venir dans les prochaines semaines, c'était un match où tu devais absolument prendre des points et tu n'y arrives pas. Et forcément, là, tu te dis, mais ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de penser qu'ils vont y arriver, Karine.
Et au final, le changement d'entraîneur, tu as parlé de Luis García Plaza qui a été nommé fin mars, ça n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'électrochoc.
Non, pas vraiment. Il y a deux matchs. Alors, le premier, c'était face à Oviedo. Ils perdent. Ils font un très mauvais match. Il y a eu un autre match face à Levante où ils perdent. Ils font un très mauvais match. Et tu te dis déjà, s'ils sont pas capables de battre les deux équipes qui sont derrière eux, c'est très inquiétant. Il y a eu une victoire face à l'Atlético, mais c'était l'Atlético D, je pense, avec que des U21. Donc, c'est très difficile à analyser, même si la victoire a le mérite d'exister. Et là, t'as un bon match face à Osasuna, mais qui n'a pas été récompensé. Donc, il n'y a pas eu d'électrochoc. Mais au bout d'un moment, Karine, tu peux changer l'entraîneur autant de fois que tu veux. Si l'effectif n'est pas au niveau de la Liga et n'est pas au niveau de tes adversaires, tu vas pas y arriver. T'as des cadres qui répondent pas présents et c'est souvent comme ça hein. Quand t'as une équipe qui est en perdition, c'est aussi que ses cadres ne répondent pas présents, et c'est le cas de cette équipe du FC Séville.
Et tu l'as dit, la série est catastrophique hein. C'est 5 défaites sur les 6 dernières journées de Liga, mais bon, on espère que le FC Séville va se sauver. C'est un club majeur quand même du championnat espagnol.
Bien sûr, et la dynamique, la réalité, c'est que la dynamique de ses rivaux aujourd'hui est largement meilleure. À part l'Espagnol Barcelone, il n'y a pas une équipe qui a une pire dynamique dans ceux qui jouent le maintien. L'Espagnol Barcelone, ils ont beaucoup de marge par rapport à eux aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un match en ce moment, hein, Espagnol Levante, qui peut changer beaucoup de choses. Si Levante gagne, pour l'instant il y a 0-0, si Levante gagne, ce serait encore un énorme coup dur pour le FC Séville.
Effectivement. Daniele, je me tourne vers toi avec ton beau maillot de Sassuolo que tu portes dans le studio. On va parler de la Roma. Alors, il y avait la guerre absolue entre Ranieri et Gasperini. Le grand gagnant, c'est Gasperini. Ranieri a été limogé, c'est ce qu'il dit, alors que le communiqué du club n'était pas aussi clair. Et donc, quoi, Gasperini se retrouve renforcé dans, évidemment, son statut d'entraîneur et aussi peut-être de manager.
Oui, bien sûr. Bon, on a dit le destin de Leicester, peut-être il est encore lié au destin de Ranieri, c'est-à-dire ça va mal pour l'un, ça va mal pour l'autre. Et bah oui, Ranieri, il a bien spécifié, il a fait une lettre aux supporters la Roma, elle est toujours dans mon corps et tout ça. Il a dit, c'était une décision unilatérale de la propriété. Mais bien sûr, mais après, c'est lui qui était en conflit avec l'entraîneur. Donc, c'était clair, c'était l'un des deux. C'était pas possible qu'ils résistaient tous les deux à leur place. Je pense que ça fait mal au cœur à certains supporters de la Roma, parce que Ranieri, il est né à Testaccio, c'est quelqu'un de romain, donc c'est un quartier très populaire de Roma. D'ailleurs, ses parents, ils habitaient dans le même immeuble de mes grands-parents. Donc, moi, à chaque fois que j'allais voir mon grand-père, il y avait l'interphone Ranieri et je pensais à lui.
Donc, ça te fait mal au cœur aussi, toi?
Non, parce que lui, en fait, c'est pas en vrai. Moi,
c'est pas sensible.
C'est une opinion. Non, mais c'est une opinion personnelle. Mais je trouve que c'est pas en vrai légende de la Roma. Il a jamais joué dans la Roma. Il a pas entraîné la Roma avant de 2017. C'est-à-dire après Leicester. Après, il est arrivé dans des moments difficiles. On dit, à chaque fois qu'on a eu besoin, lui, il était là. Oui, mais bon, ok, c'est pas non plus, il nous a pas non plus fait gagner quelque chose. On n'a rien gagné avec lui, rien échangé. Ça aurait été dans la continuation avec Ranieri, ça aurait rien changé. Mais on aurait dû repartir sur le plan technique, tactique. On aurait dû retrouver un autre entraîneur, un autre projet, justement technique. Lorsque là, au moins, on est dans la continuation avec Gasperini, qui par contre, là, il est tout seul au pouvoir, on va dire, parce qu'ils vont peut-être limoger aussi les directeurs sportifs, Massara. Et bon courage, parce que Gasperini, c'est pas quelqu'un de simple.
C'est très compliqué, oui, hein, le caractère de Gasperini. Mais c'est une bonne chose pour la Roma, toi, que ça soit maintenant clair, Ranieri n'est plus là, il est plein pouvoir pour Gasperini. Pour le bien du club, c'est ce qu'il fallait?
Ça aurait été mieux si c'était pas disputé les deux, s'il n'y avait pas eu de clash des stars. Mais là, entre les deux, oui, moi, je préférais Gasperini.
Merci beaucoup Daniele d'avoir été avec nous en studio. Merci Apollo.
Et très
merci.
Beau maillot, Daniele.
Merci.
Bah écoute, j'ai vu sur le stream YouTube.
Voilà, tu pouvais nous regarder sur la chaîne YouTube et voir donc ce beau maillot de Sassuolo porté par Daniele. Merci Edgar, merci Julien, merci Polo. Dans quelques instants, l'After Foot avec Gilbert Bois et toute sa bande. Merci à Najib et à Polo qui étaient aux manettes de l'émission. Belle soirée à tous sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.